Salut à toutes et à tous. Avant de passer au 33e épisode de la saison 7 de Vue du Banc qui reviendra à chaud sur le match entre le Bayern et le Paris Saint-Germain, petit point Copa Arena, ça faisait longtemps. La première chose pour vous annoncer le code Copa Confi. Qu'est-ce que c'est le code Copa Confi? Ça vous donne accès au premier mois gratuit. Donc c'est plutôt sympa si vous voulez découvrir tous les contenus qu'on fait et ne pas vous contenter des petites promos orales. Donc c'est jusqu'au 30 avril, ça vous laisse encore 3 bonnes semaines. Au moment d'inscription, vous tapez Copa Confi. Alors en majuscule, c'est important, dans la partie code promo, COPACONFI, comme le début de Coparena et le début de Confiné, et vous aurez accès au premier mois gratuit. Et justement, là, vous faire un tout petit point sur les derniers contenus publiés. Il y a eu Introduction à la littérature footballistique, la troisième et dernière partie qui est sortie il y a 2-3 jours. Il y a une interview de Peter Zeidler, l'entraîneur de Saint-Gall pour Projet de jeu qui ne va pas tarder à arriver. Et sur les articles, il y a un article sur les post-shot expected goals, est-ce qu'on peut en conclure sur la sous-performance et la surperformance des équipes en fonction du niveau des gardiens adverses, l'analyse de PSG Lille, il y a une analyse qui va tomber sur ce match-là sur le plan écrit, donc voilà, vraiment beaucoup de choses, n'hésitez pas à nous rejoindre, et là vous en plus vous n'avez vraiment aucune excuse pour ne pas venir, puisque du coup le premier mois est offert. Mon petit laïus est terminé, nous allons retrouver nos deux compères, Florent et Raphaël, pour cet épisode du jour.
Vue du banc, le podcast pour comprendre le jeu, vous est présenté par PMU.fr.
Messieurs, bonjour, salut Raphaël.
Salut Christophe.
Et salut Florent.
Salut Christophe.
Vous m'entendez, j'espère, mieux que l'épisode d'hier, puisque j'ai désormais Internet chez moi. On salue l'équipe, le FCSFR, qui a répondu présent dans les grands rendez-vous après quelques moments difficiles. Ils ont réussi.
Tu les avais attaqués très frontalement dans l'épisode de la veille, hein, Christophe, dans le dernier épisode.
Et ils ont su répondre présent, comme quoi. Voilà, ils ont vu le pressing, ils ont su casser le pressing, bien joué à eux. Dommage qu'il ait fallu ça. Non, je ne sais pas, mais en tout cas, ça me fait très plaisir d'avoir Internet chez moi et de pouvoir vous parler depuis ce magnifique bureau du match entre le Bayern et le PSG. Alors, on ne va pas spécialement évoquer la victoire 2-0 de Chelsea à Porto, puisqu'on était tous les trois sur l'autre match. Donc forcément, ça limite un petit peu la possibilité d'en parler. Juste dire que c'est les buts de Mason Mount et de Ben Chilwell. Le premier sur une jolie prise de balle de Mount sur une passe de Jorginho. Et le deuxième, Chilwell qui pique la balle à Corona, qui jouait latéral, et qui ensuite traverse la moitié du terrain pour aller marquer. Messieurs, donc, Bayern-PSG, victoire du PSG 3-2, but de Mbappé 3e, Marquinhos 28e, Choupo-Moting à la 37e et Müller à la 60e réduisent l'écart, puis permettent au Bayern de revenir à égalité, et Mbappé à la 68e offre la victoire au PSG. Raphaël, quel sera, à ton avis, le thème de cet épisode?
Ça va être difficile, parce que je pense qu'il va y avoir pas mal de thèmes, mais ça va être comment valoriser, je pense, la production offensive de ces deux équipes-là, et comment mesurer l'écart qui existe sur le plan collectif. Je pense qu'on n'a pas besoin de préciser, évidemment, qu'il y a eu beaucoup de plus d'occasions d'un côté que de l'autre. Il y avait une équipe qui, collectivement, était beaucoup plus forte, mais la Ligue des Champions reste une compétition, et c'est pas la première fois qu'on le dit lors de ces dernières années, où tu as quand même des variables un peu différentes des matchs de championnat. Et quelque part, le PSG de cette saison l'illustre très bien, parce qu'ils sont à la ramasse en championnat, y compris lors des gros matchs où on aurait pu imaginer que justement ils allaient répondre un peu plus présent que d'habitude. Quand je dis à la ramasse, c'est par rapport à leurs habitudes, hein, mais ils sont encore dans la course. Mais disons que s'ils avaient fait une saison complète et régulière comme les années précédentes, je pense qu'ils auraient déjà 10 points d'avance. Contre Monaco, ils ont galéré. Contre Lille, ils ont galéré. Contre Marseille et Lyon, ils ont galéré à certaines reprises en championnat cette saison. Mais en Ligue des Champions, grâce à certains joueurs, grâce à certains mécanismes précis, ils arrivent à aller gagner à Manchester, à Barcelone et maintenant à Munich. Donc voilà, je pense que c'est un peu un rappel aussi des règles différentes entre la vie en championnat et puis la vie en Ligue des Champions, cette compétition un petit peu différente.
Petit point sur les deux 11 de départ. Côté Bayern, Neuer dans les buts. Défense à 4, Pavard, Süle, Alaba, Lucas Hernandez. Milieu devant la défense, Kimmich, Goretzka. Milieu offensif à 3, Sané, Müller, Coman et Choupo-Moting en pointe. Et de l'autre côté, Navas dans les buts. Dagba, Marquinhos, Pembe, Diallo sur la partie défensive. Danilo et Gueye à la récupération. Di Maria, Neymar et Draxler sur l'animation du jeu. Et Mbappé devant, même si ça pouvait bouger, même si le Bayern a beaucoup le ballon, et donc du coup l'organisation générale du Paris Saint-Germain était surtout sur de la compensation d'espace et des choses comme ça, plus les blessures qui ont plus amené à faire rentrer Davis pour Goretzka, du coup Alaba monte d'un cran, etc. Boateng qui remplace Süle, Herrera qui remplace Marquinhos et Danilo qui redescend d'un cran. Alors je ne sais pas si on doit en parler tout de suite, Florent, mais c'est vrai que les blessures conditionnent aussi un petit peu le match, peuvent aussi, pourquoi pas, conditionner le match retour. Mais en tout cas, ça a forcé les deux coachs à s'adapter, parce que dans les deux cas, tu as on va dire un changement qui n'est pas poste pour poste, parce que tu as un milieu qui passe en défense et inversement de l'autre côté.
Oui, après sur ce match-là, le vrai changement, ça reste côté Bayern de la blessure de Lewandowski devant. Après côté PSG, tu parles de quel joueur qui passe
Danilo qui passe en défense centrale et Marquinhos
Oui, certes,
qui est
oui, pardon,
remplacé par
pendant le match.
Andrea qui passe au milieu.
Ouais, désolé, j'étais à l'ouest parce que j'étais sur les 11 de départ, moi, du coup, je comprenais pas totalement le truc. Mais oui, après, Danilo fait un match. Qui a donné un peu plus raison d'ailleurs à Thomas Tuchel le concernant lorsqu'il est passé en défense centrale. Mais c'est vrai que oui, de toute façon, dans ce. Je pense aussi que ce qu'il s'est passé sur les blessures et les disparitions de joueurs au fil de la rencontre, il y en a même qui vont sans doute sortir de ce match blessés, qui ne seront peut-être pas là ce week-end. Enfin, bon, en même temps, il a été expulsé contre Lille. Mais Neymar, avec sa douleur aux adducteurs, qui termine le match. Je pense que ça va être, il va être un petit peu sur la brèche au niveau des soins jusqu'au match retour. Après, c'est vrai que au niveau des organismes, j'ai l'impression par rapport à ce qu'on vient de traverser, ne serait-ce que sur le plan du climat, en l'espace de quelques jours, je crois que c'était pareil en Allemagne, où il commençait à faire beau, etc., et que là, les joueurs se retrouvent sous la neige avec un moins 5 ou moins 6 degrés ressenti. Je suis pas très surpris qu'il y ait eu des blessures musculaires et des joueurs qui soient forcés de sortir et des coachs qui soient obligés de faire appel à leur banc de touche.
Disons que si j'évoquais ça, ces repositionnements, c'est aussi pour introduire la notion que les coachs ont dû s'adapter et que finalement le plan de départ des deux côtés, il dure une demi-heure parce que tu dois changer des gens de place et que du coup, je pense que Raphaël, ça renforce peut-être ce que tu dis sur le côté, alors pas impréparation et pas match hors du temps de Ligue des Champions, mais le fait que finalement, il y a parfois des trucs qui échappent à la logique du rapport de force d'un match et que certains vont être capables d'élever leur niveau, d'autres beaucoup moins. Typiquement, Danilo est pour moi un peu en surperformance par rapport à d'habitude. Neuer, sur le premier but, est en sous-performance. Et c'est aussi ces choses-là qui conditionnent les allers-retours. On ne se souvient pas forcément, mais il y a des Real Bayern où, au-delà de l'arbitrage, un coup Navas se trouve, un coup ça va être un défenseur. Je crois que c'est Rafinha qui s'était pas mal troué sur ce match-là, le latéral du Bayern à l'époque et pas le milieu parisien. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que ça. Hein. C'est quand même on va dire un affrontement entre deux plans de jeu où forcément celui du Bayern avait moins de faiblesse sur son animation et sur sa base, mais ça se joue quand même pas mal sur les individualités, notamment dans les deux surfaces.
Oui, bah après c'est ce qu'on dit souvent en Ligue des Champions et on a très régulièrement parlé de City dans cette compétition et c'est ce qui leur est arrivé ces dernières années où ils ont toujours eu des trous d'air individuels. Alors là du côté du Bayern il y a cette occasion de ce but de Mbappé sur le premier là où Neuer se manque un peu, mais c'est plus les performances individuelles côté PSG je pense qui ont fait basculer le match positivement du côté parisien plus que des limites du Bayern. Évidemment que Boateng en 1 contre 1 contre Mbappé va avoir du mal. Évidemment que dès qu'il va falloir défendre la profondeur face à ce mec-là, bah, certains joueurs du Bayern vont avoir du mal. Mais ouais, c'est des variables individuelles. Et on se rappelle aussi du Bayern de l'Atlético ou le Bayern de Guardiola. Je ne sais combien d'occasions. Müller rate un penalty et puis derrière Griezmann claque un doublé. Il me semble que c'est ça. En tout cas, il fait un très gros match contre Neuer. Ce match-là m'a fait aussi penser, je l'avais dit à Flo quand on discutait pendant le match, au City Tottenham de 2019, dont il n'a aucun souvenir, mais qui était quand même un match assez fou. Je pense que Christophe, tu te rappelles peut-être un peu mieux que Florent.
Bah, je me souviens au retour, Maître Dizzy, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait ça à l'aller en fait? Parce que.
Voilà, oui. Je pense que le ratio d'occasion est à peu près similaire, sauf que Tottenham est efficace comme le PSG l'a été. Et c'est Son, je crois, qui met un doublé, quelque chose comme ça,
Oui,
qui fait
Son
match.
est toujours cette même logique de joueur très bon pour prendre la profondeur face à des équipes qui sont capables de t'étouffer.
Ouais, et bah là, Mbappé a tenu un peu le moment, mais d'ailleurs, c'est peut-être une conclusion, en tout cas un enseignement qu'on peut tirer de ce match, c'est, et Dan Perez l'avait écrit pour l'équipe dans sa preview, c'est le parti pris de Hansi Flick et qu'il a été d'autres équipes avant, de défendre avec beaucoup de pressing haut, avec cette ligne défensive assez haute, qui parfois a été haute, qui parfois a peut-être manqué de compacité avec ses milieux. Mais ça, alors, ça va étouffer l'équipe adverse, mais quand on va réussir à éliminer soit ton premier rideau, soit à trouver de la place entre tes milieux et tes défenseurs, bah, ça va très très vite créer des bonnes occasions. Et c'est sur ce match-là, le Bayern finit à 31 tirs, il y en a 12 cadrés, le PSG est à 6 tirs, 5 cadrés, sauf que la qualité moyenne des occasions parisiennes est plus élevée que la qualité moyenne des occasions bavaroises. Donc il y a une accumulation qui, c'est vrai, montre un Bayern largement supérieur collectivement, qui savait ce qu'il voulait faire avec le ballon, qui savait ce qu'il voulait faire sans, qui pouvait manœuvrer un peu comme il voulait le PSG en phase offensive. Côté parisien, on s'est adapté à ce que proposait le Bayern et on a essayé de survivre dans certaines zones. Mais quelque part, les 4, 5 ou 15 que tu as, t'es efficace dessus, mais c'est déjà des occasions, c'est toutes des occasions finalement qui sont déjà des bonnes occasions. Je me souviens pas d'un tir parisien qui est pas une bonne situation.
Bah, la relance ratée de Kimmich, je crois, ou Draxler, tir de 25 mètres au-dessus, qui est peut-être le dernier tir parisien du match vers la 65e.
Ah oui, c'est ça, oui, la frappe de loin, ouais, en effet. Ouais. Et encore, tu vois, c'est une frappe moyenne, mais c'est une situation intéressante encore. Donc,
oui,
c'est...
il peut même potentiellement y avoir une passe, enfin oui. Dans l'absolu, c'est pas une frappe de dépit. Ouais. T'essayes de te précipiter pour exploiter un truc.
Et c'est vrai que t'as cette domination quasiment constante du Bayern, hein, à part sur peut-être quelques temps faibles de 2-3 minutes. Mais le moindre échec dans le pressing, le moindre échec dans du 1 contre 1, finalement, crée des bonnes occasions pour l'adversaire. Et c'est un peu ce qu'avait vécu le Liverpool de Klopp il y a quelques saisons, quand Klopp avait un peu transformé cette équipe et les avait amenés à défendre plus haut avec un pressing très agressif. Bah, quand tu n'arrives pas à t'appuyer sur ce plan de jeu, sur ce projet de jeu même, puisque ça dépasse le cas d'un seul match, bah forcément tu concèdes des grosses occasions, et concéder des espaces, des grosses occasions à Neymar, Mbappé et même Draxler ce soir, c'est pas la même chose que qu'on les concédé à d'autres joueurs qui vont pas forcément te sanctionner autant.
Florent, avant Dan Perez, que l'on salue, qui est un ami du podcast, il y avait toi-même, Florent Tonuti, qui avait écrit sur ce Bayern-là et la manière dont le PSG pouvait le déstabiliser. Tu avais écrit ça sur, ouais, Copa Arena. Qu'est-ce que... Voilà, est-ce que ça se recoupe parfaitement? Est-ce que tu as vu des choses un petit peu inattendues, en sachant qu'il n'y avait finalement pas de surprise au fait que le Bayern soit fragile en profondeur, parce que c'est un peu toujours la même histoire. On l'avait vu à la fois dans tes articles, dans des stats, etc. Mais est-ce que la façon dont il s'est fait transpercer, le fait que, par exemple, Paris essaye de relancer court depuis le gardien, choses comme ça, alors avec une réussite pas toujours au rendez-vous, hein, mais ça, c'était conforme à ce que tu attendais, ou tu as été surpris sur 2-3 choses?
Non, oui, ça a été conforme. En fait, moi, la grande question que je me posais avant le match, c'était la capacité ou non de certains Parisiens à surjouer, notamment dans les sorties de balles, puisque par rapport au pressing à la paire du Bayern, au fameux marquage préventif dont vous parlez beaucoup dans l'interview à venir avec Peter Zeidler sur Copa Arena, au niveau du marquage préventif, qui est individuel, pour le faire exploser, le plus simple, ça reste le troisième homme. Et donc, moi, la grande question, c'était lorsque la balle allait arriver dans les pieds de Neymar, de Dybala, voire de Mbappé, même si Mbappé traînait quand même un peu plus haut sur le terrain, est-ce que le joueur touché dos au jeu allait jouer simple vers un joueur face au jeu, ou bien allait essayer de garder la balle, de se retourner, de se mettre tout seul dans le sens du jeu? Et en fait, dans les premiers mouvements du match, et notamment l'action de la troisième minute qui mène au but de Mbappé, eh ben, ça se passe de manière très simple. Je crois que Neymar se retourne une première fois, et touche Di Maria, là Di Maria est dos au jeu, qu'est-ce qu'il fait? Il remet en une à Neymar, qui ensuite a tout le champ, et peut transpercer la défense et aller fixer jusqu'à décaler Mbappé. Et c'est ce genre d'action-là qui en effet qu'il fallait reproduire pour mettre en grosse difficulté le Bayern. Et comme l'avait très bien montré aussi Balzaretti sur RMC juste avant le match, et comme l'a dit Raphaël, au niveau des grosses occasions, sur les 6 tirs, là j'ai les chiffres sous les yeux, le PSG a 4 grosses occasions en 6 tirs, donc ils en ratent 2 en plus, alors qu'en face le Bayern a 6 grosses occasions sur 31 tirs, mais on y reviendra par la suite en détail. Mais non, ouais, cette simplicité en gros au moment de la sortie de balle pour casser le pressing, en simplement un appui remise vers un joueur lancé et ensuite capable de porter le ballon, et Neymar, bon, bah, conduite de balle, on sait que ça lui va, c'est on n'a jamais eu Gay ou on n'a jamais eu Danilo dans cette position de se projeter, de porter la balle. Draxler l'a plutôt bien fait aussi tout au long du match. Ouais. Di Maria, c'était un peu plus compliqué. Mais c'est à ce niveau-là ouais, que le PSG a fait plutôt bien les choses sur le plan offensif. De toute façon, on savait qu'ils auraient des opportunités pour sortir. Après, il y avait les joueurs pour cette fois. Et je me suis même dit à un moment donné pendant le match, quand je voyais les Parisiens essayer de sortir le ballon et être un peu en galère, je me suis même dit que le fait de ne pas avoir Paredes et Verratti, qui peuvent être vus comme des solutions, voilà, on prend la marée, on prend la tempête, reposons-nous, essayons de garder la possession. Au moins, je me suis dit, vu que ces deux-là ne sont pas là, Paris est obligé de jouer à fond les attaques rapides et à fond la verticalité. Et du coup, Paris s'offre peut-être même plus d'occasions qu'il n'en aurait eu de mettre en danger le Bayern de cette façon. Mais c'était un petit...
Ouais. Après, t'as aussi le scénario où s'il faut que le Bayern aille sortir sur Verratti et qu'il se fait éliminer au pressing, t'as peut-être deux fois plus d'occasions aussi. C'est l'autre... Parce que Gay a été plutôt bon dans ce domaine-là aussi, d'ailleurs, m'a étonné. Plusieurs fois, il a trouvé Neymar entre les lignes. Mais disons que si t'as Verratti et que Verratti trouve vite Neymar, Draxler, Mbappé plus haut, tu vois, t'as peut-être... Tes temps faibles sont peut-être un peu moins longs, parce que tu vas te créer une occasion toutes les... 10-12 minutes, alors que là c'était toutes les 20 presque.
Ouais, mais je sais pas si dans l'habitude il partirait sur du jeu direct ou s'il se reposerait pas plus sur Verratti pour essayer de relancer un temps de possession et souffler justement, ouais. Ce qu'ils n'ont pas pu faire aujourd'hui parce qu'ils n'avaient pas les joueurs pour. Ah. C'est ce qui leur a vraiment manqué pour éviter d'encaisser 31 tirs et de s'en tirer de cette manière là quoi.
Bah, ça a évité de voir le Neymar du PSG dominant qui va porter pour pas grand chose finalement, alors que là il a été extrêmement, comme tu disais, extrêmement productif et vertical dans ce qu'il a fait.
Raphaël, t'as évoqué Verratti, ça me fait une transition parfaite pour évoquer la comparaison entre le PSG de ce soir, d'hier soir pour ceux qui nous écouteront dans quelques heures, et celui qui a reçu Barcelone sur la non-remontada, mais où il y a quand même eu un moment le fait de dire est-ce que Barcelone peut pas un peu inverser le score. Et il y avait Verratti sur ce match-là et ça n'avait pas empêché le Barça de récupérer quasiment tous les ballons dans les 30 mètres adverses. Qu'est-ce que tu vois comme différence entre les deux approches? Est-ce que, voilà, pour vraiment poser une question très concrète, est-ce que le PSG, s'il avait joué comme ce soir face au Barça, il aurait... Alors, c'était pas, il y avait un score à défendre, etc. C'était pas les mêmes enjeux. Mais est-ce qu'il aurait eu, on va dire, le même type de match et le même type d'occasion, alors que face à Barcelone, ça, je vais pas dire que ça sort de nulle part, hein, mais le fait d'être longtemps à hauteur au score alors que tu peux être mené était quand même plutôt bien payé.
Ouais, après, est-ce que le Barça n'était pas meilleur sur le pressing à la perche que le Bayern de ce soir, slash hier soir?
Je pense, oui. Mais je te pose la question pour...
Parce que, oui, non, mais c'est pour te mettre en avant aussi, tu vois. Toi qui d'habitude dans l'opinion et l'analyse. Non, mais le Bayern fait un gros match offensivement, même s'il y a des limites individuelles sur certaines situations. Mais vraiment là où je les ai trouvés fébriles, voire faibles parfois, et c'était surtout côté droit. C'est dans la relation à la perte du ballon Kimmich, Pavard, Sané. Bon, en fait, dans la zone de Draxler. C'est peut-être aussi pour ça que Draxler fait un meilleur match que Di Maria. Même si sous pression, Draxler a toujours été bon, et même dans ses pires moments, c'était sa qualité. Mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de moments où tu sentais que Draxler avait le temps de se retourner, et qu'à partir de là, il pouvait trouver des passes diagonales à l'intérieur, vers Mbappé, vers Neymar, et que là, tout se décalait très rapidement, parce que le Bayern met tellement de joueurs dans le camp adverse, et tellement de joueurs hauts entre les lignes, que quand tu le perds, et que le premier joueur qui la récupère en face n'est pas dos au jeu, n'est pas bloqué... Mais tout de suite, t'as des pistes qui peuvent s'engager, t'as des angles de passe qui sont ouverts, t'as le porteur qui est pas cadré, et ça s'ouvre très très vite. Et alors, Kimmich est très très bon, c'est un joueur incroyable, et on va pouvoir parler de sa qualité de pied, parce qu'il claque encore des ballons fous, mais par contre, je l'ai trouvé en première mi-temps contre Neymar, et en deuxième contre Draxler, vraiment loin dans ces séquences-là, parce qu'il jouait déjà très haut. Et je sais pas ce qu'il y a manqué, il faudrait que je revoie le match dans la relation de la moitié droite du terrain du Bayern. Donc c'est vraiment Kimmich, donc Boateng en deuxième période, Pavard, Sané qui était couloir droit. Mais il y a un truc dans cette zone là qui s'est pas bien passé au moment de la perte, soit parce que en possession ils étaient pas organisés de façon à pouvoir presser la perte, soit parce qu'à la perte il n'y a pas eu assez d'efforts pour enfermer. Mais il y a beaucoup de situations dans les situations parisiennes en tout cas, pas mal de situations qui sont parties comme ça d'une zone où Draxler pouvait avancer, où Neymar pouvait se connecter un peu avec lui. Et tu pouvais d'ailleurs, il y a 2-3 fois où il y a un renversement à l'opposé qui a raté. Je crois que c'est il y a Neymar quand Tantin, il y a Mbappé quand Tantin, je crois, pour aller trouver un joueur à l'opposé. Je me demande si c'est pas Di Maria à un moment. Et Davis revient couper grâce à sa vitesse. Mais vraiment, sur cette zone-là, ils ont été assez fébriles. Et c'est aussi un motif d'espoir pour le PSG au retour, même si le Bayern continue à se créer beaucoup d'occasions. C'est que tu sens quand même que une passe verticale réussie, finalement, est quasiment synonyme de déséquilibre dans le camp adverse.
Je sais pas ce que t'en as pensé, Florent, mais pour moi, il y a un côté, au-delà effectivement du déséquilibre droite-gauche, un peu inhérent au jeu, à partir du moment où tu vois, alors sur le début de match, ensuite, ça, les joueurs ne sont pas les mêmes, mais Zuleux, à la base, dès qu'il y a un espace à attaquer, il l'attaque, et du coup, ils vont se retrouver assez facilement, enfin, avec des partenaires derrière eux, mais eux vont, en fait, si tu veux, t'as pas la phase de possession un peu calme pour installer les meilleures positions comme tu peux avoir du côté de City ou autre, faire du marquage préventif, tout ça. Là, tu as vite des centraux qui sont en fait à 40 mètres du but adverse et qui non seulement vont casser la ligne, en tout cas attaquer l'espace avec ballon, mais qui ensuite vont vite chercher, par exemple, si Pavard est assez haut, Zuleux attaque l'espace et va essayer de décaler Pavard, sauf que si la passe est interceptée, concrètement, t'interceptes la passe, tu pousses un peu le ballon, ces deux joueurs-là sont éliminés, t'es quasiment plus personne en couverture. Pour moi, il y a un petit côté inhérent au jeu qui fait que puisque t'essayes toujours d'attaquer l'adversaire, bah parfois c'est difficile de contre-presser si tu perds ça sur la phase un peu initiale.
Oui, c'est sûr. Et là, de toute façon, par rapport à cette discussion-là, le fait que, notamment, surtout à la bas qu'il a fait en début de match, qui portait la balle, parce que côté parisien, il y avait eu une approche. C'est vrai que par rapport au match précédent, dans l'approche défensive du PSG, il n'y a pas eu de pressing très haut. On n'a pas fait les courses pour essayer de forcer le jeu long. Je pense que les Parisiens voulaient éviter d'être pris dans la profondeur comme ils pouvaient l'être face au Barça avec les appels de Dembélé ou même face à Lille avec les appels de Ikoné ou de David, voire de Wea par la suite, où il suffisait d'un ballon un petit peu écarté vers le latéral alors que Paris est en train d'avancer, de presser une ligne défensive qui se retrouve à avancer, à être prise dans le dos. Là, les Parisiens ont attendu. Ont vraiment, j'ai pas souvenir de voir Diallo ou Dagba, tu sais, sortir de manière agressive vers un mec sur le côté pour couper une passe qui se dirigerait vers le couloir. Ils sont vraiment restés dans l'axe.
Juste sur des transversales à la limite s'ils avaient le temps, voilà. Mais sinon non.
Et c'est vrai qu'il y a eu cette première chose là qui a privé un petit peu le Bayern de profondeur. Et forcément, à partir du moment où le PSG laisse venir, j'ai presque envie de dire en première mi-temps, le seul boulot défensif spécifique côté parisien, c'était sur Kimmich, et c'était soit Neymar qui s'en occupait, soit Gueye qui le reprenait quand Kimmich se baladait un peu plus haut sur le terrain. Mais du coup, avec un Mbappé qui était un petit peu déconnecté et ce travail spécifique sur Kimmich, forcément, comme tu le disais, ça ouvrait beaucoup de terrain pour Alaba ou pour Soulé, surtout Alaba qui a avancé en première mi-temps, j'ai eu l'impression, et qui pouvait du coup, face aux deux lignes de quatre parisiennes forcément assez compact dans l'axe, et ben on envoyait le jeu sur les côtés, et puis ensuite on construisait. Et c'est vrai que côté PSG, j'ai eu l'impression qu'en première mi-temps, ça penchait un peu plus à droite avec les transversales d'Alaba, mais c'était un point de départ, parce qu'après, voilà, soit tu finissais à droite avec un centre, un décalage de Sané, une percussion, une montée de Pavard, etc., soit tu ressortais la balle, tu repartais à gauche, etc. Et c'est vrai que globalement, Paris a très vite, on va dire, mis à part l'envie de contrôler un petit peu Kimmich au milieu, de réduire son influence, en tout cas de réduire sa capacité à jouer verticalement et à faire des passes qui, on va dire, qui cassent la ligne défensive et qui lui permettent de lancer des joueurs dans la surface. Il n'y en a pas eu beaucoup de celles-là. Mais ensuite, Paris a dû attendre et un petit peu, et a laissé, enfin, mis le jeu du Bayern sur les côtés et a. C'est contenté de renvoyer les centres autant que possible. D'ailleurs, en terminant la partie à 46 dégagements et 24 contre, ça fait beaucoup quand même.
En fait, je pense que si le Bayern avait voulu faire 0-0, il aurait pu faire 0-0. Avec une possession beaucoup plus défensive et plus de sécurité dans tes positionnements en possession. Parce que le PSG n'allait pas venir te chercher. Mais après, Pochettino était conscient que Flick ferait jamais ça. Mais c'est-à-dire que t'aurais pu imaginer, je pense que tu mets Guardiola à la place de Flick, il réfléchit beaucoup, il se dit est-ce que vraiment On va défendre aussi haut, on va mettre autant de mecs sur la. Est-ce qu'on va mettre 5 mecs face aux 4 de derrière en face? Parce que ça veut dire que derrière on va devoir défendre des 1 contre 1. Et mon Flick est resté dans son délire. Et de toute façon, c'est ce qui a aussi ramené le Bayern au plus haut niveau ces derniers mois et ces dernières années. Mais je pense vraiment que le. Alors peut-être pas qu'il regrette pas du tout, mais peut-être que dans ce moment, il se demande est-ce que j'aurais pas dû la jouer différemment? Peut-être avec moins de rythme, avec. Un peu plus de contrôle de sécurité pour avoir peut-être pas deux fois moins de tirs mais plus de travail sur les situations offensives pour éviter de perdre des ballons qui ont donné des contres parce que les seuls moments où le PSG pouvait la récupérer c'était soit une transversale ratée et il n'y en a pas eu beaucoup, j'ai même pas souvenir d'une transversale ratée du Bayern en fait, ce qui est assez impressionnant. Je sais pas si vous en avez une en tête.
Ça
Là comme
dépend ce
ça
que tu
non.
appelles transversale, mais genre, tu vois, la relance de Kimmich, c'était une transversale voulue, elle
Oui.
décolle pas là sur les tirs de Draxler, mais vraiment sur les ouvertures, typiquement. Et d'ailleurs, c'est ce que j'allais te lancer là-dessus, hein, mais Florent disait que le bloc était resté relativement bas du côté parisien pour pas offrir de la profondeur. C'est vrai que quand tu vois la façon dont tu t'es fait transpercer et la précision des transversales du Bayern, on le sait, hein, il n'y a pas de surprise, Kimmich à la bas notamment, c'est assez exceptionnel là-dessus. Mais là, je pense clairement qu'il n'y a aucun regret, parce que quand tu fais des trucs au millimètre sur 60 mètres à l'opposé, t'imagines que si tu laissais 25 mètres dans le dos de ta défense, il y aurait eu 5 face à face, quoi.
Ah oui, non, c'est
Et
sûr.
bloc qui a reculé en deux temps, c'est-à-dire première mi-temps, se maintenait bloc médian, c'est-à-dire la première ligne, elle était, on va dire, au niveau du rond central, à peu près. Et c'est vrai que à 2-1, tu as senti les Parisiens en fin de première mi-temps reculer encore et finir avec tout le monde dans les 40 mètres quasiment. Et un bloc qui ressemblait beaucoup au, enfin, qui pouvait ressembler au bloc d'Allegri de la Juve. Bon, beaucoup moins imperméable, hein, mais dans la position du bloc, les blocs de Conte ou d'Allegri, c'est-à-dire tout le monde dans les 40 mètres et les deux attaquants derrière le rond central à peu près, quoi.
En
Voilà.
fait, ce qui est fort défensivement, c'est pas forcément ce qu'a fait le PSG collectivement, parce que, alors oui, ils ont été présents, ils ont été courageux, solides, etc. D'accord, bon, ils
De
concèdent
toute
quand même
façon.
une trentaine de tirs, mais c'est
Ouais.
plus dans le. Je finis, Flo, après tu pourras enchaîner. C'est plus dans, je trouve, dans la gestion et le contrôle des duels dans la surface, parce que c'est le genre de match où tu peux très vite concéder 2-3 pénaltys, hein, quand tu vois les joueurs de duel en face.
Et tu
Je les
l'avais
ai
parié en
trouvés.
plus.
Ouais, je l'avais parié, et quand tu vois Coman face à Dagba, tu te dis bon, bah à un moment ça va y aller. Finalement, quitte à perdre ses duels, il préfère ne pas faire faute, ce qui peut être compréhensible, mais c'est plus dans cette défense de la surface propre qu'ils ont été forts que dans l'idée d'empêcher le Bayern de se créer des occasions.
De toute
C'est
façon, je ne pense pas qu'on puisse dire que le PSG fait un grand match défensivement quand il encaisse 4,14 XG. Mais c'est vrai que sur la technique individuelle, dans la surface de réparation, le match, on l'a évoqué un peu rapidement tout à l'heure, mais que fait Danilo,
Ouais, c'est ça.
moi, il y a absolument rien à
En
dire. Il fait un très
fait,
très très gros match.
c'est plus ça, c'est plus d'arriver à défendre proprement, même quand tu perds des duels avec Dagba. Bakke! J'ai réussi, Christophe, ou pas?
Ouais, c'est ça, Baka.
Et Danilo contre ces mecs-là. C'est plus ça qui finalement est assez fort. Et alors, tu sais pas vraiment à qui l'attribuer. Est-ce que c'est une bonne préparation mentale? Est-ce que c'est un bon travail technico-tactique? Est-ce que c'est des joueurs qui arrivent à élever leur niveau, même si certains ont été vite dépassés en 1 contre 1 et Dagba a vraiment a pris le bouillon face à Coman.
Mais pour Danilo,
Mais
ça peut pas être de
c'est.
la prépa, vu qu'il change de poste en cours de match. Déjà,
Oui, non, en
le
plus,
mec a
ouais,
pas été
c'est ça.
briefé, quoi. C'est vraiment prépa mental. Alors peut-être que le fait d'avoir fait un peu ça sous Tuchel l'a aidé aussi, même s'il faut quand même dire qu'il est pas au marquage sur le premier but. Mais
Oui,
aussi,
et
bon,
puis
c'est.
surtout qu'il n'y a personne au marquage de Lewandowski, ce qui t'aurait complètement bouleversé la surface, parce que c'est pas du tout les mêmes situations que tu aurais rencontrées.
Non, mais
Donc,
c'est ça. Mais.
mais voilà, c'est vraiment le fait de ne pas avoir concédé pénalty, j'étais assez impressionné hein, sur l'ensemble du match.
Bah, surtout le nombre de fois où. Alors, il n'y a pas que lui, hein, parce que en seconde période, Bakker, le nombre de fois où Sané le dribble une fois dans un sens, puis il le redribble, puis il le re-redribble. Bon, au final, il va nulle part et t'as une prise à deux qui finit par arriver, donc du coup, c'est un peu contre-productif. Mais sur la première période, le nombre de fois où Coman passait devant Dagba, ça m'a un peu rappelé le nombre de fois où il était passé face à Kerrer en finale de Ligue des Champions, et au final, ça n'aboutit sur rien. Alors c'est facile, hein, mais tu te replonges quelques années à l'arrière, tu te dis Ribéry s'il finit un but, une passe D à la mi-temps, quoi, sur le même type d'occasion, parce
Bah.
qu'en sortie de dribble, il n'arrive pas sur ce match-là à faire quoi que ce soit.
Ouais, et puis il y a pas la même qualité de frappe chez Coman et Robben que chez Coman et Sané que chez Ribéry et Robben
Ah oui, bah c'est pas la machine à marquer, ouais.
ou même Douglas Costa quand il était en feu à certaines époques où il déclenchait des frappes absurdes dans des positions PES, mais
Ou
c'est vrai
même
que c'est
Gnabry.
Oui, ou même Gnabry, ouais, qui des deux pieds en plus peut déclencher. Et c'est vrai que là, Sané et Coman là-dessus sont un peu plus limités, donc c'est quand même, je vais pas dire plus facile de défendre. Hein. S'ils arrivent face à moi, je fais un arrêt cardiaque. Mais ça t'enlève une possibilité, et du coup, tu sais un peu plus quoi faire. Même si Coman, je sais pas, j'ai pas ses stats de duel, mais il doit passer 9 fois sur 10 contre Dagba.
Alors justement, petit quiz, messieurs, combien de buts la meilleure saison statistique en championnat de Coman depuis le début de sa carrière, sachant qu'il a 24 ans mais qu'il est au plus haut niveau depuis assez longtemps.
Je suis passé sur sa fiche il n'y a pas longtemps. Je dirais 7.
J'aurais dit 6, moi.
Oui, 6 buts en
Putain.
1387 minutes en 2018-2019 en championnat. Il faut dire qu'il pète pas les stats ailleurs puisqu'en coupe il fait 2 saisons à 2 buts. C'est tout, et en Ligue des Champions, il fait les 2 dernières saisons, donc il va peut-être battre son record là sur celle en cours. Il est à 3 buts, donc il a. Si tu additionnes, il fait peut-être sa meilleure saison, ça doit être 8 ou 9 buts toutes compétitions confondues. Là, je fais pas les
Après,
stats en direct, mais voilà, c'est.
c'est assez logique compte tenu de son style de dribble, je trouve. Parce qu'il s'ouvre pas d'angle de frappe quand il dribble. Il s'ouvre que des angles pour centrer. C'est un dribble assez
Extérieur, ouais.
90 degrés.
C'est un
Donc
dribble
c'est.
pour Guardiola, ça, pour ensuite faire le centre au point de
C'est ça, pour
pénalty.
faire le
Mais
centre en
justement, il...
retrait pour un joueur qui arrive lancé. Et bon,
par
ça
contre,
pas.
en
Vas-y, quoi.
stade de, en stade passe D, ça va un petit peu mieux, je crois.
Oui,
Ouais,
je les ai plus en tête, mais je crois quoi, il est à 8 ou 9 cette saison, il me semble.
Je vais te dire, parce que je les ai pas loin. Ouais, 9, 9 cette saison. Ouais.
Ouais, c'est un peu en dessous de Müller,
Mais
mais ça
c'est
reste.
largement son record, par contre, parce que l'an dernier, c'était 3, 4, 3, 1, 6, depuis qu'il est au Bayern. Donc c'est vraiment cette année qui franchit un cap, quand même, au niveau des passes décisives.
Florent, tant qu'à faire un truc à thème, tu
Ouais.
avais mis des stats de côté sur le nombre de tirs du Bayern depuis le début de la saison, sur ce match par rapport à ce qu'il fait d'habitude, sur la production, etc. générale, pour un petit peu contextualiser. Alors ça remet pas en cause la victoire parisienne, hein, mais pour dire un petit peu que le Bayern ne fait pas ça chaque semaine. C'est-à-dire que c'est pas, y a des matchs qui sont gagnés avec moins d'occasions du côté allemand.
Oui, beaucoup moins. Bah, tout simplement, on va commencer par les tirs. Les tirs, donc ce soir, le PSG concède 31 tirs face au Bayern Munich. C'est le record de tirs réalisés par le Bayern cette saison. Puisque le deuxième plus gros total, c'était face à la défense de Schalke, la merveilleuse défense de Schalke 04. C'était 28 tirs, c'était au mois de janvier dernier. Et la deuxième meilleure perf du Bayern, c'était 27 tirs, c'était lors d'une victoire 4-2 face à Dortmund, il y a quelques semaines d'ailleurs, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Match où, il me semble, les Bavarois avaient été vite menés aussi.
Oui, c'est
Donc il avait
ça.
fallu courir après le score et donc pas mal réagir. Ce soir, je crois qu'il y a 12 tirs cadrés, puisqu'il y a 10 arrêts de Navas. 12 tirs cadrés, c'est aussi un record cette saison pour le Bayern. Enfin non, record égalé, record établi déjà contre Schalke lors du même match, victoire 4-0 au mois de janvier, et contre Bielefeld dans un match sous la neige, dans des conditions qui ressemblaient pas mal à celles d'hier soir. 12 tirs cadrés aussi. Donc voilà, ça c'est le premier truc. Et sur les expected goals, donc ce soir, on en est à 4,14, il me semble, si on prend XG Philosophie. On en est à 3,6 si on prend les stats de Michael Calais. Donc voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Sachant que le record du Bayern cette saison, c'était 5,1 contre Schalke 04. Lors d'une victoire 8-0. Cette fois, c'était la première journée de championnat au mois d'août. Non, au mois de septembre, pardon, quand le Bayern reprenait en décalé un petit peu sa saison. Et le deuxième meilleur total du Bayern, c'était face au Hertha Berlin à 3,8, sachant que en Ligue des Champions, le meilleur total du Bayern jusqu'à ce soir, c'était 2,6 face à Salzbourg et face à la Lazio. Ce sont les stats de FBRF, donc ce sont les stats qui viennent de chez Statsbomb. Donc voilà, ça permet ouais, de remettre un petit peu dans le contexte des perfs habituels du Bayern, la performance défensive du PSG. Qui s'en sort quand même, on peut le dire, assez miraculeusement quand même avec seulement 2 buts encaissés.
Sachant, alors même si tu peux faire ça sur tous les matchs, hein, mais que face à la Lazio, y a 2 buts, enfin surtout un qui est une
Donné.
passe en retrait, et
Ouais.
enfin c'est donné, donc du coup c'est 0,6 ou 0,7 XG au-delà du but, qui
Par
sont cadeaux,
contre,
donc qui te gonflent les stats un peu sans raison, quoi.
ouais, on peut néanmoins signaler que Paris n'a pas fait ce genre de cadeau
Oui, bien
malgré la
sûr, oui.
pression qu'il pouvait prendre ce soir. Il y a eu au moins ça, parce que c'est vrai que quand tu vois Dagba sur le côté droit, quand tu vois la paire Danilo Gueye au milieu, tu peux te dire que sous la pression, il y a un ballon qui peut être perdu, une bêtise qui peut être faite, un ballon qui peut vite revenir et se transformer en but. Ce soir, il n'y a rien eu de donné. Par contre, Paris en a concédé énormément quand même.
Tu vois, c'est ça, Raphaël, qui m'intéresse. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai parfois eu le sentiment que le Bayern n'attaquait pas si bien, en tout cas que certaines individualités n'étaient pas forcément au niveau, parce que n'attaquaient pas si bien. Dans l'absolu, voilà, ils essayaient d'attaquer à l'intérieur et ça fermait à l'intérieur, ça balançait des transversales et ça centrait, mais bon, le centreur était libre et t'avais du monde dans la surface, donc c'était pas de l'attaque en U, c'est-à-dire que le centre était vraiment on te prend ce qu'on te donne, mais c'est...
Oui, parce que c'était quand même des centres bord de surface, voire entrée sur, voire dans la surface, c'était pas les centres genre Alexander Arnold contre le Real par exemple.
Oui, c'est ça. Donc on peut dire que collectivement ça attaquait bien. D'ailleurs, je trouve que avec le ballon, ce Bayern-là fait partie, tu vois, on se plaint souvent un peu du déclin de la Ligue des Champions pour diverses raisons, hein, mais l'enchaînement de matchs fait pas forcément du bien. Je pense que cette équipe-là tient tout à fait la route par rapport aux meilleurs d'il y a 3, 4, 5, 6 ans. Mais individuellement, il y a des performances qui me déçoivent. Et pourtant, malgré tout, cette performance, la production collective face au but est quand même supérieure à l'habitude. C'est ça où il y a une forme de paradoxe et où se pose la question, alors je sais pas si t'as envie de parler de ça ou d'autre chose, mais de ton numéro 9 et d'à quel point le fait d'évoquer tout à l'heure, en gros, le rythme mis par le Bayern, à quel point ce truc n'est viable que quand t'as un très grand numéro 9. Parce que là, t'es parti d'un très grand numéro 9 à un très médiocre, quoi. T'es même pas passé sur une étape intermédiaire où ça pourrait fonctionner avec un 9 un peu moins bon. Là, il y a vraiment quand même un sacré écart sur un jeu où finalement, c'est quand même lui qui arrive en bout de chaîne.
Ouais, après, il faudra qu'on évite quand même de tirer des conclusions trop hâtives de 90 minutes où le Bayern n'a pas beaucoup de chance non plus, parce que même Müller en a une énorme début de match là sur un coup de pied arrêté, je crois, ou un ballon qui revient par-dessus la défense et il frappe sur Navas. Je sais plus, ça doit être vers la 15e, la 20e, quelque chose comme ça. Il y a Alaba qui a eu au moins une énorme occasion en fin de match là avec son plat du pied qui frôle le poteau, donc ça peut très bien finir à 4-3, 4-2, 5-2, 5-3, et on va dire, ah bah ok, match où ça s'est rendu des coups, mais le Bayern a gagné au point parce qu'ils ont eu 1000 fois plus de touches qu'en face. Donc la question que je me pose sur ce Bayern-là, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent changer sans Lewandowski pour qu'au retour, les occasions arrive contre une défense moins en place. Parce que tu avais quand même une énorme densité défensive de la part du PSG. Et je prends l'exemple de la talonnade de Choupo-Moting, là, qui était plutôt bien sentie. Et je crois qu'il y a Danilo qui est sur la route, il y a un autre joueur qui est à côté. Enfin, il y a toujours cette densité-là. Comment le Bayern peut faire pour sortir de cette densité-là? Parce que c'est souvent dans ce genre de match, finalement, que tu as beaucoup d'occasions, mais tu ne concrétises pas. Parce qu'il y a beaucoup de jambes, il y a beaucoup de densité. Finalement, tu t'affrontes un bloc resserré, donc t'accumules des bonnes petites occasions en termes de XG, mais tu vois, il y a 31 tirs du côté du Bayern, il y en a combien qui sont contrés, par exemple? Je sais pas si on a la stat là, mais il doit y en avoir pas mal, je pense. Peut-être une dizaine, un peu moins, qui sont contrés parmi les tirs du Bayern.
Si je ne réponds pas, c'est que je ne sais pas. Je dirais 8-10, mais j'en sais rien.
Ouais, j'espérais que Flo, la machine à stats, soit...
Sur les tirs contrés?
Soit en action à côté.
Ouais, il y en a 10.
Ah bah voilà.
Ah bah j'étais pas mal, et toi aussi.
Ouais.
Donc c'est vrai que c'est ce problème-là, et je me dis comment ça peut changer pour le Bayern. Est-ce que tu peux pas tenter un peu plus de centres en retrait? Parce que là, c'était souvent des centres forts devant le but, ou forts premier poteau, ou forts sur Müller, Choupo, qui devaient se retourner ou s'orienter sur la prise de balle, parce qu'ils étaient toujours finalement avec un joueur sur leur côte ou un joueur sur leur dos. C'est ça. Je me demande comment le Bayern peut changer ça. Est-ce que ça vient peut-être de changer de côté comme Sané, pour qu'ils puissent déborder sur leurs pieds forts et centrer en retrait derrière, même s'ils sont capables de jouer mauvais pied juste pour centrer, hein. Mais c'est la question que je me pose, parce que je vois pas comment le Bayern, vu que là pourtant il était assez cohérent collectivement et assez fort, avec en plus je crois qu'ils perdent quoi, ils perdent Goretzka, ils perdent Süle, je sais pas comment faut le dire,
Süle
comme Alex,
parce qu'à un moment pendant le match ça disait Süle sur RMC.
Après, j'ai même douté. Il y a un joueur. Alors, c'est vrai que sur son début de match, je suis pas franchement convaincu de son apport et de sa performance. Il fait pas une grosse première demi-heure jusqu'à sa sortie, remplacé par Davis. Par contre, quand le Bayern pousse comme il a poussé en deuxième mi-temps, parce qu'il y a eu quand même quelques temps forts où Paris n'arrivait plus du tout à sortir. Alors, il y en a eu en première aussi, mais ça s'est accentué aussi en deuxième, genre entre la 50e et la 60e minute, je crois qu'il y a une séquence où le Bayern ne sort pas des enfin, où le Bayern ne quitte pas les 30 mètres parisiens. Et je crois que Danilo fait trois dégagements décisifs d'affilée où il coupe des trajectoires devant Choupo, devant Müller ou devant je ne sais plus qui. Sur ce genre de période-là, Goretzka, je pense qu'il aurait pu faire de sacrés dégâts quand même dans la surface en arrivant en deuxième rideau.
Il serait arrivé en trailer.
Oui,
tu sais, un mec qui arrive comme pour dunker en arrivant un peu derrière le premier passeur.
Là, je surtout pense qu'il n'y a, autant... a pas de profil comme ça quand t'as un binôme à la Bakimich, en fait.
Bah voilà, c'est ça, ouais. C'est ça.
À la base, il peut le faire là. En fin de match. Il a son occasion en fin de match où il arrive comme ça sur le centre en retrait, là où le ballon repoussé, je sais plus ce que c'est.
Ouais, mais il a fait quelques matchs milieu dans sa carrière depuis qu'il a 16 ans, quoi. C'est ça
Et puis il a besoin de ballons particuliers. Goretzka, tu t'envoies un centre, il est capable d'y aller.
La différence
est là, quoi. Et c'est vrai que je pense que dans cette situation-là, si Goretzka n'est pas là dans une semaine, ça peut enlever aussi une autre épine du pied de PSG, parce que c'est vrai que, comme le dit Christophe, il n'y a plus ce deuxième milieu, à moins de relancer Javi Martinez.
Il y a toujours
dans le coin.
Il y a Moussiala qui est plutôt un 10, oui, mais qui a déjà joué plus bas dans des matchs ultra dominés.
Mais l'absence de Zoulou pose problème aussi, parce qu'il défendait mieux sur Mbappé que Boateng l'a fait. À un moment, il y a une séquence en première mi-temps où il passe devant Mbappé hyper haut sur le terrain, au même moment où il le tacle.
Ouais, je me souviens. Ouais, il coupait très
Mbappé,
bien.
Mbappé commence à s'orienter vers le but, il vient le tacler assez fort et sans faire faute d'ailleurs, pas du tout. Et Boateng, les seules fois où il a eu Mbappé face à lui, il a reculé en fait. Et le but que met Mbappé le troisième, c'est super bien joué de la part de Mbappé, mais Boateng est à 1 mètre de Mbappé, il bloque rien en fait.
Oui, il filme.
Quand j'ai vu la situation, je me suis dit putain, il doit repenser à Messi, il doit être terrifié. J'ai pensé à ça. Je me suis dit, c'est un contre un comme ça, fin de match, deuxième période, gros enjeu. Est-ce que tu vas réussir à tenir ton 1 contre 1? Puis il le tient pas, il recule trop.
Vous avez vu la déclat de Müller?
Si on gagne 5 ou 6-3, ce n'est plus la même histoire.
Ouais.
J'allais la sortir à la prochaine intervention.
Ah ben voilà,
mais après il n'a pas forcément tort.
Oui, mais s'il gagne 14-2, c'est pas la même histoire non plus. Mais 5-3-6-3, ça fait quand même un gap énorme entre ce qui s'est vraiment passé.
Après, il a perdu la moitié du sang qui était dans son cerveau sur le match, donc je suis pas sûr que cette déclat soit forcément bien senti. Incroyable l'expression faciale qu'il a eue quand l'arbitre lui a dit: mais vous avez perdu la moitié de votre sang, monsieur, il faut sortir. Qu'il l'a regardé.
Il a quand même touché sa tête pour regarder, pour être sûr, ouais, parce qu'il n'était pas convaincu, quoi.
Non, mais c'est vrai que là, il y a quand même quelques absences, quelques blessures côté Bayern qui posent problème sur à la fois la situation que tu vas devoir améliorer ou changer pour mieux attaquer la surface adverse, et les situations que tu vas devoir en gérer face à Neymar, Mbappé. Bon, après, Neymar est sorti blessé, Mbappé boité en fin de match, donc ça se trouve le PSG va arriver avec Édouard Michu et un jeune du centre au match retour, je sais pas, mais j'aime beaucoup Édouard Michu, hein, mais c'était pour
avec Sarabia faux même... neuf.
Ouais,
après, il y a Keane qui peut faire du mal dans des situations. Il n'est pas forcément au niveau de Mbappé, hein, mais clairement.
Mais qui apparemment physiquement était déjà au bout du rouleau, de ce que disait Bouafsi sur RMC. Retour de Covid, il a eu un Covid en début de mois. Je crois que là, en plus, il était en sélection italienne,
oui.
Il me semble.
Donc, oui, c'est ça.
Il a peut-être rechopé le Covid, je sais pas. Mais c'est compliqué. Il est entré, il avait l'air cuit en fait.
Non, mais il était, c'est ce qu'il disait, ouais, qu'il était déjà cuit, qu'il toussait beaucoup, qu'il crachait ses poumons. Je crois même qu'il a utilisé cette expression, ouais. Et que ça allait pas du tout. Ouais, donc ça risque d'être compliqué. Un truc par contre sur les occasions du Bayern que j'ai oublié de mentionner, c'est que tout à l'heure Raphaël t'évoquait le fait que Paris se crée en effet quasiment que des grosses occasions sur ce match. J'ai calculé simplement en prenant les XG de moyens de Michael Callet ou des autres là qu'on a pu voir passer sur Twitter, et pour compter le XG par tir en fait du Bayern, et on est sur en revanche, donc quand dans la quantité on est sur les meilleures perfs de la saison du Bayern, en termes de qualité de tir on est sur une des pires performances du Bayern, ou sur la qualité du tir moyen, voilà.
Ouais, bah oui,
puisqu'on est aux alentours de 5-6%, et 5-6% c'est ça fait partie des pires perfs de la saison pour les Bavarois.
Même si c'est souvent corrélé, au bout d'un moment, plus tu frappes, c'est,
oui,
que c'est difficile.
C'est
mais bon.
Souvent lié, mais ça le c'est fait en plus de...
Ah ouais, c'est que 5-6%, j'aurais pensé quand même plus que ça, parce qu'ils sont à 4 XG sur 30 tirs, j'aurais pensé au moins 10-12% par... je sais pas. Mais non,
non, je me suis trompé en fait.
Ah, pas,
oui, non, désolé.
Mais sinon, un truc qu'on n'a pas mentionné, c'est qu'il y a un but quand même refusé à Paris pour un hors-jeu de 14 cm, quoi. Ce qui, Enfin, tu vois, ça dit aussi quelque chose. C'est-à-dire qu'effectivement, pour moi, le Bayern est très malchanceux, ou maladroit, ou malheureux. Enfin, tu peux le prendre de pas mal de façons, mais pour moi, le Bayern a fait son match. Maintenant, il y a un but qui aurait pu arriver. Enfin, ça se joue à rien qu'au final, tu encaisses un but supplémentaire pour une situation totalement analogue aux autres où tu te fais prendre en profondeur. Donc, c'est ça aussi qui
Mais
m'embête un petit peu. C'est-à-dire que Paris a mis quasiment toutes ses occasions, mais pas toutes. Et il y a un scénario où Paris peut en mettre encore un de plus.
ça découle un peu du style Flick aussi, c'est que le alors quand ça marche et que t'es efficace dans ton style, évidemment tu peux même des claques à tout le monde, mais t'es tellement dans un projet de jeu radical que la fourchette de scénario est plus large, je trouve, parce que tu ouvres beaucoup pour toi et pour tes adversaires.
Alors je suis d'accord, et
Enfin,
je...
tu ouvres la profondeur, hein, je précise, parce que par contre, Paris n'a pas réussi à ressortir court quasiment une seule fois du match. Mais tu ouvres des espaces dans ton dos et tu en crées beaucoup pour toi.
Ben, je suis...
Disons que c'est des matchs à plein d'occasions, tu vois. Il n'y a pas une grosse occasion d'un côté et deux demi de l'autre.
Ben, je suis tout à fait d'accord, et je trouve que sur ça, le Bayern est moins bon. De toute façon, le Bayern marque moins de points que la saison dernière, hein. Mais que le Bayern est moins bon cette année parce que il concède beaucoup plus de choses, parce que son pressing à la perte est moins bon. Je pense aussi que voilà, la trêve plus courte, etc., fait que tu as peut-être moins le tonus pour faire les courses sur la perte de balles et ces choses-là. Tu as peut-être un petit peu moins de capacité à mettre de l'intensité. Maintenant, il y a Lewandowski qui te permettait, sur tous les autres matchs, de gagner ces matchs 50-50. Il y a pas mal de matchs où XG, t'en concède 2,5 et t'es à 2,5 aussi, ou des choses comme ça. Parfois contre Hoffenheim ou d'autres, ça passe pas. Mais sinon, t'as Neuer et Lewandowski, et à chaque fois ça tombe du bon côté. Et là, c'est rigolo, c'est. Enfin, Flo, je vais pas reciter les stats de Flan, mais c'est pour une fois ultra déséquilibré, et c'est ce match-là que tu perds. Alors que, sans même revenir sur le match du week-end, parce que Lewandowski était pas là, mais où c'est quand même très, très chanceux de battre Leipzig et de quasiment assurer le titre. Justement, l'histoire, c'était que tu gagnais un peu des matchs on va dire au scénario Ligue des Champions en championnat. Parce que tu avais le meilleur gardien et le meilleur neuf sur le terrain, donc du coup, bah, tu passais à chaque fois.
Bah exemple, juste exemple contre Salzbourg, quand ils gagnent 6-2 au début novembre, donc ils s'imposent 6-2 avec 20 tirs pour eux, et en face, Salzbourg termine à 19 tirs. Et ça finit à 6-2 en faveur du Bayern Munich, pour donner un
On va
exemple par rapport à ce que tu
arriver
disais.
à la conclusion que le Bayern de Flick produit les mêmes matchs que le Lyon de Genesio à l'époque, en Coupe d'Europe.
Alors non,
Non, mais par contre,
mais
toi,
que
j'ai
le
regardé les stats
Shakhtar...
du. Je regardais les stats du Bayern et on parlait de l'absence de Lewandowski, le fait que du coup tes occasions, tu as plus de mal à les concrétiser, les valider parce que t'as pas forcément d'autres joueurs aptes à valider des petites occasions. Et c'est vrai que l'écart entre lui en termes d'expected goals et les autres du Bayern est abyssal en championnat. Il est à 26, Gnabry, le deuxième avec 6,8.
Ah oui, et puis en
Et
plus il est
sur
jamais
Taylor.
blessé, donc
Ouais. Sauf
c'est
maintenant.
oui, bah
Ouais.
oui. Mais le fait qu'il soit jamais blessé fait que t'as Choupo en deuxième attaquant. La blessure de Lewandowski, j'en parlais déjà la saison dernière, en disant s'il se pète et que t'as Zirkzee pour terminer la saison en point de titulaire, ça va être compliqué. À un moment, il y a eu Sandro Wagner qui restait 4 mois et qui a fini par partir, je crois, en Chine, parce qu'il ne jouait jamais, parce que Lewandowski n'était jamais blessé et voulait tout jouer. Et le fait d'avoir une seule pointe fait que c'est un petit peu compliqué d'avoir un attaquant de remplacement qui soit de bon niveau parce que tu sais qu'il jouera jamais. Et donc, ce qui était ta force devient ta faiblesse la première fois où Lewandowski est blessé.
Est-ce que Claudio Pizarro est disponible d'ici le match retour? J'ai l'impression que tous les 2 ans, le Bayern se disait, bon, on va reprendre Claudio Pizarro parce qu'on ne sait pas qui prendre.
Ouais, mais là c'est un petit peu tard, mais vraiment là sur bon en plus ils ont quasiment personne sur le banc, là je vais vraiment juste les citer. Donc Davis et Boateng rentrent, autre personne sur le banc, bon t'as Nubel qui est le gardien, Bouna Sarr qui ne joue pas souvent, qui n'est pas spécialement bon quand il joue, et puis avec le clash entre Flick et Salihamidzic, bah le fait que ça soit une recrue Salihamidzic, Flick n'a pas spécialement envie de le faire jouer. Javi Martinez qui fait quand même son âge, même si c'est pas le pire joueur du monde, c'est pas du tout le joueur qu'il a été.
Qui fait ses blessures aussi, parce qu'il a
Oui.
été blessé la moitié de sa carrière depuis qu'il est au Bayern.
C'est ça. Il y a également Tanguy Kouassi, qui est encore très vert et qui est un poste où, après, tu n'auras pas encore forcément besoin de lui sur le retour. Et enfin, Moussiala, qui est le jeune prodige. Qui arrive, qui a 18 ans, je crois qu'il a eu une bonne frappe, une vingtaine de mètres, donc là-dessus il pourrait être intéressant, mais voilà,
Il
c'est encore
marque
très
face à
neuf.
la Lazio, je crois. de l'entrée de la surface comme ça.
Ouais, c'est possible, mais j'ai l'impression qu'il marque toujours le même but en fait. Il oui. a vraiment une. Il a
dans l'arc de cercle à peu près à l'entrée de la surface, ouais.
Et tu vois, bah, c'est donc 18 ans depuis peu, et il a déjà 4 buts cette saison, 3 en championnat, 1 en Bundesliga pour quelqu'un qui arrive, qui en plus eut ses premières sélections avec l'Allemagne, lui qui était binational anglais. Donc joueur à suivre, mais maintenant, ça me paraît compliqué de te dire que tu vas te reposer sur Moussiala dans un double pivot où il se projetterait pour espérer faire une remontée au retour. D'ailleurs, je sais pas comment vous voyez le retour, Raphaël.
En fait, encore une fois, la fourchette des scénarios est telle que tu peux très bien prendre perdre 3-1 au retour. C'est pas du tout impossible que le PSG perde 3-1 au retour, c'est pas impossible non plus que comme contre le Barça, il marque rapidement et que derrière, même une performance collective moyenne te permette de passer. Donc c'est... Je sais pas, finalement, on a peu parlé de certains joueurs parisiens, Neymar et Mbappé, mais...
Bah tu peux, hein.
J'en profite, c'est que c'est des tels facteurs dans ces matchs-là, eux. Et pourtant, Neymar nous a rendu fous le week-end dernier contre Lille. C'était contre Lille, oui, je crois. Je confonds les matchs, il y en a tellement.
Oui, oui,
contre Lille. Franchement, à la limite de l'overdose, et là il te sort un match où il est hyper efficace, il est hyper productif, sa passe D pour Marquinhos est magnifique, c'est une inspiration géniale, où il sent très bien, tu sens le mec qui comprend vite le foot quand même, parce qu'il se dit ah ok, le Bayern aime remonter tout le temps sur ces ballons là, mais là la situation est un peu chaotique, si je la mets à peu près dans cette zone là, je vois qu'il y a du monde, je pense que quelqu'un pourra la maîtriser.
C'est quand même et la même passe qu'il met à
Sergio Roberto. ouais. Sauf que là, elle est en une touche, alors que Sergio Roberto, il fait crochet et finalement, il joue pied gauche. Mais bon, elle est aussi mauvais pied et elle est meilleure que les bons pieds de la plupart des mecs sur le terrain. Donc, et tu vois, c'est ce qu'on disait sur les occasions concédées par le Bayern. C'est une des rares occasions concédées par le Bayern, mais c'est un 2 contre 1 où t'as Marquinhos Mbappé contre Neuer à 5 mètres du but.
Mais après, ça vient d'un coup de pierre, d'ailleurs, corner à deux. Ouais. Et ça fait partie des. Enfin, tu vois, les gens, il y a toujours qui vont continuer à critiquer les corners à deux. Tout le monde aura oublié que cette situation-là vient d'un corner à deux où c'est repoussé, mais au final, la balle revient sur l'endroit où tu voulais jouer au départ, avec l'angle de passe ouvert.
Tu n'auras pas oublié, toi, Christophe. Et par contre, ça fait partie des autres parties, enfin, des parties prises du Bayern, de remonter dès que possible. Et là, il remonte, mais sans comprendre que c'est Neymar qui peut la jouer en une touche. Il remonte comme si c'était Dagba qui récupérait le ballon, et c'est pas du tout lui. Et elle est magnifique. Et puis Mbappé qui je trouve, fait pas du tout un match à la hauteur de ce qu'il avait fait contre le Barça à l'aller, notamment dans la participation au jeu, et parce que le PSG se crée moins de situations. Mais qui par contre joue très bien un contre un contre Boateng sur le troisième but et est heureux sur le premier. Mais voilà. Et un moment aussi où il met le feu à Zoule, là, il arrive à le dépasser et il centre et Draxler arrive un peu loin. Je crois qu'il arrive un peu tardivement sur un centre en retrait. Ils ont eu sur tellement peu de situations, ils ont créé tellement de choses et concrétisé tellement de choses qu'avec eux, tu te dis bah, finalement des séquences comme ça de 45-60 minutes. Il faut être très présent et mettre 2-3 buts. Pourquoi pas? Et ça me rappelle ce que tu disais au début de la saison quand on parlait de Ligue des Champions, Christophe, où tu voyais le PSG aller en finale malgré tous leurs problèmes.
Ouais, le PSG, le Real, c'était les deux équipes où.
Les joueurs sont tout simplement tellement forts dans ces moments-là, ces mecs-là, comme une capacité à élever leur niveau et à répondre présent dans la plupart de ces matchs-là. Depuis le Dortmund retour, en fait, ils ont une régularité assez dingue dans ces matchs-là. Donc c'est vrai que c'est. Quelque chose quand même qu'il faut jamais oublier dans cette compétition où souvent il y a le théorème du qui a le meilleur joueur sur le terrain, bah souvent c'est lui qui l'emporte. Donc c'est pas arrivé au Barça depuis quelques temps parce que Messi est toujours le meilleur joueur sur le terrain, mais le Barça a perdu. Mais pour pas mal d'autres matchs, c'est le cas.
Peut-être dire qui a deux des trois meilleurs joueurs sur le terrain pour.
Ouais, même si après sur le match tu peux dire que Kimmich et Müller sont quand même forts aussi.
Mais t'as Navas à Paris aussi. Ouais, on en a pas parlé, mais il ressort 10 arrêts quand même ce soir encore.
Et puis Marquinhos, sa demi-heure est pas mal du tout non plus. Pour un mec qui était pas dans les meilleures conditions.
Ça fait quand même deux blessés qui marquent des buts décisifs après Jonathan David face à Paris. Quoi.
Après, sachant que la moitié des joueurs ou le quart des joueurs se blessent pendant un match, la probabilité est assez haute. Naturellement, mais Marquinhos, je crois qu'il a plus de dégagement sur ses 28 minutes que Kimpembe sur l'ensemble du match, quelque chose comme ça, ce qui est assez fort aussi. Moi,
oui, c'est ça,
finit leader là-dedans.
C'est ça, Marquinhos 7, Kimpembe 6, Danilo 13.
Et puis d'ailleurs, Marquinhos va falloir commencer à compter ses buts importants en Ligue des Champions parce que ça devient très Sergio Ramos hein, là depuis un an et demi.
Et on peut, par rapport au dégagement, après je te laisse embrayer sur Marquinhos, mais sur les dégagements, t'as aussi Herrera qui rentre assez.
Qui est pas mal, ouais.
Qui rentre
aussi,
à la 30e et qui termine avec 5 dégagements dans la fameuse zone où atterrissent en général les centres en retrait, quand on regarde dans le détail.
Donc, ouais, mais Paris a été bon dans cette zone-là. Hein. Gaï aussi, il a fait quelques interventions dans cette zone-là. Flo, t'as raison de le préciser, je voulais en parler tout à l'heure et j'ai oublié. Mais sur les centres en retrait, en dehors de l'occasion d'Alaba, là, dont on parlait tout à l'heure, c'est vrai que Gaï et Herrera. Et là aussi, c'est des situations où c'est difficile de ne pas concéder de pénalty. Parce que souvent, t'arrives un peu en retard, tu peux crocheter un mec. Et c'est d'ailleurs comme ça que Modric a failli en avoir un contre Liverpool. C'est des situations où tu peux vite faire une erreur. Ils ont été assez propres là-dessus et parfois ils ont réussi à les transformer en contre-attaque. Donc vraiment le Herrera et Gay et Danilo sur sa performance en tant que défenseur central ont claqué des bonnes grosses perfs malgré le nombre de tirs concédés en fait. C'est truc, ça aurait pu être pire et malgré la supériorité collective du Bayern, ils ont fait assez pour permettre au PSG d'exister.
Florent, je sais pas ce que t'en penses, mais ce qui est pas mal pour Mbappé dans des matchs comme ça, alors c'est pas le seul, mais ça rejoint un petit peu ce que tu disais sur les milieux qui n'ont pas surjoué, le fait qu'il n'y ait pas Verratti, Paredes, donc du coup t'es pas forcément l'envie de trouver Gay sous pression, c'est-à-dire que Mbappé n'a aucun intérêt à décrocher pour essayer de ressortir la balle, parce que de toute façon la balle a quand même de bonnes chances d'être perdue avant, et t'es pas forcément envie de construire, donc du coup là-dessus il peut faire ce qu'il fait de mieux, alors ça veut pas dire qu'il sait faire que ça, mais d'attaquant de profondeur. Et là-dessus, t'as pas forcément le loisir d'être frustré, de se dire tiens, mais il joue pas ses transitions, etc. Parce que tout imparfait qu'il puisse être sur la lecture de certaines situations, là, il voit bien que s'il se positionne à la limite du hors-jeu, il peut assez facilement avoir une énorme occasion. Donc du coup, on voit le meilleur de Mbappé sur ces situations-là, et on n'a pas trop le loisir de s'énerver finalement.
Ouais, je me suis d'ailleurs posé la question pendant le match, au moment où Neymar est blessé, ou enfin se touche l'adducteur. Et où je me dis, si Neymar sort, Mbappé va être obligé de décrocher pour favoriser les sorties de balles parce que Paris n'a personne sur le banc capable de faire un petit peu ce que fait Neymar. Donc je craignais que Mbappé soit obligé de redescendre pour prendre ce rôle et que du coup il n'y ait plus du tout cette menace dans la profondeur et que du coup ça mette le PSG encore plus en difficulté. Bon, Neymar a serré les dents, mais c'est vrai qu'il y a eu ce moment-là dans le match où je me suis posé la question de est-ce que Mbappé va pouvoir rester dans ce rôle d'attaquant de rupture, quoi, vraiment collé à la ligne et à la recherche du moindre espace à attaquer. Il y en a eu. Il y a eu ce troisième but quelques minutes plus tard où il est bien lancé par Di Maria. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça a été quand même très important que Neymar, Draxler réussissent eux-mêmes à remonter les ballons pour que lui reste devant et n'ait pas à s'éparpiller, en effet, comme tu le dis, à faire d'autres choses qu'il peut faire. Il avait bien fait face au Barça, où il avait fait un très bon match pour aider les sorties de balles au Nou Camp. Lui et Keane avaient fait de bonnes prestations de leur côté, à gauche et à droite. Mais c'est vrai que sur ce match-là, on l'attendait un cran plus haut pour punir le Bayern dans la profondeur. Et le fait qu'il puisse faire 90 minutes dans ce registre, à mon avis, était très important, parce qu'il est resté une menace jusqu'à la fin du match.
Raphaël, est-ce que tu as en tête beaucoup d'équipes? Alors, c'est pas pour taper gratuitement sur eux, mais c'est pour aussi attester des constructions d'effectifs, des équipes, là, récentes, qui ont un écart tel entre les deux meilleurs joueurs sur le terrain et les deux moins bons. Si tu considères l'écart entre... Alors, il y a les blessés, hein, évidemment, mais pas que, entre Dagba, Bakker d'un côté, et Mbappé, Neymar de l'autre, d'un bout à l'autre de l'échelle, parce que, sans vouloir être méchant, ouais. Hein, mais il y en a qui... peuvent gagner le match tout seul et d'autres où au final t'es quasiment toujours obligé de les aider parce que c'est très compliqué. En fait, je me pose la question à quel point le fait, tu vois, ton théorème du le meilleur joueur te permet de gagner le match. Il n'y a pas un moment où tu te diras le pire joueur sur le terrain va te le faire perdre.
Oui, c'est l'autre partie du théorème, oui. C'est
le théorème Diego Contento.
Pire joueur. Non mais après oui, là la question c'est plus quelle est l'équipe avec le plus écart entre les deux meilleurs joueurs et le 18ème, on va dire, parce que Dagba en théorie doit pas être dans les 15.
Oui, en fait le truc c'est qu'il est avec la lutte avec Florenzi et Kerrer qui sont pas non plus incroyables, ils sont sans doute meilleurs, ouais. Enfin Florenzi sans doute meilleur que lui, hein.
Après Florenzi est beaucoup bien meilleur avec ballon, que Dagba les passes vers l'avant là sous le pressing c'est impossible quasiment. Il a fait que rejouer vers l'arrière, vers les centraux qui pouvaient faire qu'une seule chose, rejouer vers Navas qui ne pouvait que faire dégager. Donc, Donc c'était assez vite répétitif. Mais je sais pas, je réfléchis au plateau déjà de cette saison. Et je me dis que déjà Liverpool, qui joue avec Philippe Skabak en défense centrale.
C'est bien si on revient toujours à Kamak, et ça, j'aime beaucoup.
Et encore, Kabak est pas dégueulasse contre le Real. Hein. Philippe, c'était pire. Mais c'est l'association des deux en fait qui rend le tout impossible. C'est quand tu joues avec Alcantara, Fabinho au milieu de terrain et que derrière toi, tu as Kabak et Philippe. C'est pas très
En
sérieux.
plus, ces deux centraux, c'est pas comme des latéraux où à chaque fois le central de ce côté-là ou le milieu de ce côté-là peuvent venir en aide en prise à deux, quoi. Là, les deux centraux, au
Bah,
bout d'un moment.
ouais, c'est-à-dire que là, je pense que si tu inverses le match du PSG où tu as un joueur du niveau de Danilo latéral droit, un joueur du niveau de Kimpembe latéral gauche et des joueurs du niveau de Dagba et Bakker dans l'axe, je pense pas que ça finit à 3, à 2-3.
Oui.
Donc ça peut être un bon dilemme aussi. Est-ce que tu préfères avoir deux centraux très bons et deux latéraux très moyens pour le niveau de compétition en question ou l'inverse?
L'inverse.
Ouais,
L'inverse.
voilà.
Je prends les centraux personnellement.
Alors je suis
Très très
d'accord.
loin.
Après, il y a quand même des profils d'adversaires. Typiquement, tu mets le Bayern avec Lahm, Robben et
Oui.
Alaba Ribéry. Celui-là, tu mets des latéraux faibles face à eux.
Oui.
Eux
Oui, c'est
vont jamais
fini, ouais.
tester les centraux et ils éliminent le latéral, il y a but.
Ouais, mais après, c'est ce qu'on aurait pu se dire aussi sur ce match-là avec Coman face à Dagba, et puis finalement, t'as réussi à sauvegarder ta perf avec les centraux et Navas. Oui, c'est vrai qu'il y a Navas qui change beaucoup de choses aussi.
Disons que tu peux faire une finale de Ligue des Champions avec Contento latéral gauche, mais je pense qu'il y a beaucoup moins de passagers clandestins en défense centrale en finale de Ligue des Champions que latéraux gauche. Ou droit, d'ailleurs, les deux se valent. Je sais pas, hein, mais j'en ai
Je me demande si...
j'ai pas d'exemple qui me
Non.
vienne en tête, en fait, de
J'allais dire,
centraux.
est-ce que Oleguer joue pas la finale 2006? Mais non, je pense que c'est Edmilson qui joue
Puis
derrière.
latéral droit, les gars
Il est
aussi.
latéral droit aussi, je crois, Oleguer, il me semble.
Ouais, enfin, il était pas vraiment footballeur du Barça.
Ouais, il était militant
C'est vrai, c'est vrai.
et symbole. Mais par contre, le Barça a fait des finales avec Busquets, Yaya Touré en défense centrale. Mais c'était. Enfin,
Ouais, mais
tous les
c'était quand même
joueurs
des
étaient
sacrés joueurs de
monstrueux,
foot.
quoi. Donc il n'y avait pas de.
Non, mais je réfléchis au vainqueur précédent, sinon au finaliste. Tottenham, non, c'était quand même des défenseurs qui étaient pas mal. Liverpool a toujours eu des centres corrects en finale de Ligue des Champions. Tu fais quand même une finale de Ligue des Champions avec Lovren, qui fait la même saison finale de Coupe du Monde.
Oui.
Oui.
Mais qui est quand
C'est
même
ça.
meilleur que ne serait Dagba, enfin que ne serait l'équivalent de Dagba en tant que central, je pense. Pour ce niveau de compétition, chaque fois j'ai l'impression qu'on est méchant avec les joueurs, mais c'est juste que là on atteint un niveau de compétition tel que même si t'es bon, bah c'est trop fort.
Oui, et puis je pense que le débrief dans les vestiaires avec Dagba sera plus corsé, je sais pas, hein, mais le
Mais
travail
après,
spécifique sera plus
dans les
méchant.
faits, tu peux bosser, mais est-ce qu'il peut vraiment rivaliser avec Coman? Je veux dire, même s'il a la meilleure technique défensive du monde, s'il prend 4 mètres sur 2 mètres quand Coman pousse le ballon, il peut avoir la meilleure technique défensive du monde. Après, il y a un écart individuel, une supériorité individuelle qui est trop forte en fait.
Oui, là-dessus, sa meilleure chose, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est de pas faire faute en fait.
Ouais.
C'est bah t'es éliminé, mais au moins fais pas de bêtises quoi. Fais porte de saloon, mais sans plus. Mais moi, c'est même pas pour défoncer un tel ou un tel. C'est juste que en fait, je me pose la question si t'as la même compo au retour, est-ce que le Bayern peut pas se dire alors c'est difficile parce que le Bayern a toujours eu un peu cette construction égalitaire, si on peut dire, avec Flick, où tout le monde a un peu le même nombre de ballons, etc. Mais te dire, c'est quoi, on va charger au maximum tel joueur pour vraiment lui faire prendre l'enfer parce que t'as un gros point faible.
D'ailleurs, je suis surpris qu'il n'y ait pas eu plus de dédoublement de Davis en deuxième période.
Oui, c'était assez surprenant aussi, oui.
C'est parce que alors Coman arrivait à éliminer Dagba, donc il n'y avait pas forcément besoin finalement, mais ça aurait été mieux d'avoir un gaucher qui arrive lancé et qui puisse avoir le temps de regarder dans la surface ce qui se proposait, parce que quand tu es en train de dribbler un joueur et qu'après tu dois centrer, c'est difficile d'enchaîner les dribbles et les prises d'infos. Et je trouvais qu'il y avait finalement peu de participation de Davis dans cet espace-là. Ou à la base, même à un moment, tourner à 3 avec les deux autres. Ça a été pas mal en fin de première mi-temps, début de deuxième. Et puis ils ont petit à petit abandonné ça. J'étais un peu surpris.
Florent.
Davis termine avec 0 0 passe clé, je crois, sur le match. Ce qui peut être surprenant vu son rendement habituel et son rôle.
Et pas spécialement de retour défensif. Enfin, tu vois, j'ai l'habitude du Davis qui monte tout le temps et qui, du coup, doit faire 7 ou 8 retours en catastrophe.
Il en fait un où il coupe une passe en profondeur quand
Oui,
même
c'est ça. Non, mais je veux dire.
pour démarrer.
Enfin, il y a des matchs où il passe son temps à attaquer, et du coup, il défend. C'est un truc qui est toujours sur la brèche, et tu le dis, tu lui enlèves un dixième de seconde sur 40 mètres, il n'y a plus rien qui va. Là, il jouait de manière finalement assez peu radicale pour une équipe de flics, quoi. C'était l'un de ceux qui était le plus, j'ai l'impression, dans une espèce d'entre-deux, peut-être pas prudent, hein, mais qui jouait de façon, entre guillemets, logique, alors que parfois, il y a un côté très illogique à mettre tout le monde devant le ballon et à espérer que ça tienne. Hein.
Après, j'ai l'impression qu'il vit une saison un peu plus galère que la saison dernière aussi, Christophe,
Ouais.
même en championnat.
Oui, il a repris il y a un mois, je crois. Il ressortait de blessure. Il a eu une blessure assez longue. Il est revenu. Il y a quelques jours, il s'est fait expulser. Ou semaines, il s'est fait expulser contre Stuttgart. Du coup, il jouait pas ce week-end face à Leipzig, je crois. Enfin, oui, c'est un petit peu plus compliqué sa deuxième saison pour l'instant.
Oui, bon après. Et c'était l'un
Après,
des
ça partait
meilleurs
très haut.
c'était le
Voilà,
meilleur
c'est
latéral
ça.
gauche du monde sur sa première vraie saison à ce poste-là. Donc c'est vrai que
C'est ça.
c'était pas forcément facile de le maintenir, mais à voir si ça fera pas une Alaba qui a eu son pic de carrière pour moi à genre 22 ans quoi. C'est-à-dire que le Alaba 2013 il est injouable. Après ça reste un très bon joueur, mais pour moi il a jamais été aussi bon que sur ses débuts. Donc à voir. Florent, on va pas non plus faire 4 heures d'émission sur ce match. Juste, comment est-ce que tu envisages le match retour? Parce que ça peut permettre aussi, on a parlé vite fait avec Raphaël, de faire un peu un aspect preview. Est-ce que tu vois le même type de match et donc du coup un truc qui va se jouer aussi au réalisme ou peut-être que ça sera plus équilibré? Parce que j'imagine mal que ça soit encore plus déséquilibré. En tout cas, sur tu prends le volume total de tirs d'un côté et de l'autre, j'imagine mal le différentiel passé. Je crois que là, c'est 25 tirs de plus pour le Bayern. J'imagine mal que ça puisse être 30 ou 35 en fait.
Oui, non, je l'imagine mal aussi. Après, on va voir, parce qu'avec cette Ligue des Champions et ces matchs resserrés, les retours Covid, parce que ça peut quand même peser pas mal sur les effectifs et les 11 de départ des deux côtés. Donc ça peut aussi dicter un petit peu la capacité du PSG à bien ressortir, ou à mieux ressortir avec Verratti, la capacité du Bayern à mieux finir s'il récupère Gnabry. Par exemple. Mais là, on est du mercredi au mardi, donc il n'y a que 6 jours.
Il y a Paredes qui doit revenir du suspension aussi.
Oui, le retour de Paredes
Est-ce
aussi.
que tu sors Gueye après sa performance?
Non, je pense pas. Mais la question qui peut se poser aussi, c'est est-ce que tu sors Danilo après sa performance?
Bah, de toute façon, Marquinhos sera. Enfin, j'imagine Marquinhos pété,
Ouais, il y
Danilo en
a ça
défense
aussi, ouais.
centrale, et du coup, Paredes Gueye peut-être, si tu veux pas remettre
Ce serait.
Herrera.
Si Marquinhos est vraiment pété, oui, je pense que c'est en effet la logique.
Bah,
Mais c'est vrai que
adducteur en
l'entrée
6 jours, ça me
d'Herrera,
paraît.
ouais, ça paraît compliqué, ouais. Après, ils arrivent à faire des miracles, je crois, dans certaines infirmeries. Mais sur le match retour, en fait, ce qui peut être par rapport aux XG qu'on a eu ce soir, ce qui peut être fou, c'est que le Bayern peut tout à fait se qualifier au Parc des Princes grâce au but à l'extérieur. C'est un scénario qui peut tout à fait se produire, je pense.
En tout cas, ouais, non,
Ça
c'est
peut se finir
possible.
à
Ouais.
4-3, ça peut se finir à. Ça peut être n'importe quoi le match retour aussi. Parce que de toute façon, côté Bayern, je vois pas dans les statistiques avancées de ce match qu'est-ce que Flick peut dire à ses joueurs à part dire bah, si on est re...
Marqué!
Oui, bah oui, mais je vois pas vraiment ce qu'il peut dire d'autre en fait.
Bah là, en conf d'après-match, en tout cas, c'est ce qu'il dit, quoi. Et Müller dit pareil. C'est
Ouais.
vraiment, bah, on a fait notre match,
Non,
on
mais...
doit juste être meilleur devant le but.
Après, ils peuvent quand même mieux organiser certaines séquences de possession pour pas manger des contres où Draxler élimine un joueur et derrière, il peut faire ce qu'il veut avec le ballon.
Ouais, mais ça, ils l'ont fait toute l'année, quoi. C'est
Ouais.
ça aussi, ils ont... Toute l'année, ils peuvent se prendre des contres comme ça. Mais si le Bayern ce soir marqué, en effet, bah, ça fait 4-3 et t'en parles pas. Ou 5-3 ou 6-3, comme le dit Müller, même s'il exagère un petit peu.
Après, même si c'est 4-3, j'ai envie de te dire que vu la supériorité collective, tu dois pas gagner que 4-3, tu vois.
Oui.
Tu dois pas te mettre en danger à ce point. Mais bon, mais tu domines autant grâce à comment tu joues aussi. Donc c'est toujours entre ce que ça te coûte et ce que ça t'apporte.
Après, t'en prends 3, Neuer en donne un aussi. Il donne le premier, qui conditionne peut-être une partie de la suite de la rencontre quand même, vu que le Bayern court après le score dès la deuxième minute. Mais voilà. Ne, si Neuer, alors, tu prends le prochain match, si Neuer donne rien et que le Bayern fait le même match que ce soir, je pense que le Bayern peut se qualifier. Et en effet, comme je le dis, grâce au but à l'extérieur, peut-être.
Moi, je suis sûr que Neuer se foire parce qu'il s'attend à une frappe plus compliquée à arrêter. Parce que Mbappé a le temps de la placer,
Oui, il tire dessus en fait.
de
Il tire vraiment
cibler, et du
dessus. Ouais.
coup, c'est ça, il tire dessus, et j'ai l'impression qu'il n'est pas prêt à ce qu'on lui tire dessus, vu le temps qu'a Mbappé pour frapper. tout cas, même moi, ça m'a surpris le fait que Mbappé frappe là. Parce qu'il a du temps
Oui.
Pour l'ajuster. Je me suis dit, bah, il va frapper fort sous la barre ou croisé. Ou...
Moi, dans ma tête, j'étais presque à me dire, mais c'est quoi cette finition, quoi? Tu veux me dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il a tout le temps, il lui tire dessus. Et puis bon, ça fait but, donc très bien.
Oui, avec parfois le facteur neige, Flick l'évoque, je sais pas. Je sais qu'il y a pas à quel point ça joue, mais c'est vrai que ça peut être un petit peu embêtant. Raphaël, moi je vois, enfin je vois bien un scénario. Disons, je n'exclus pas un scénario qui serait assez rigolo, du Bayern qui mène genre 2-0, qui continue à jouer son jeu et qui
Et
prend
se
le 2-1
remonter.
sur un contre, enfin
Ouais.
sur un truc où il s'ouvre et qui est éliminé juste d'avoir continué en fait. Parce que cette équipe ne sait pas gérer le tempo, alors qu'elle pourrait très bien le faire. Même s'il n'y a plus Thiago, elle pourrait faire une passe à 50 et conserver le score pendant de longues
Mais
minutes.
pour la santé mentale de pas mal de personnes, y compris de moi, il vaudrait mieux ce scénario que l'inverse où le PSG mène 2-0 et perd 4-2, ce qui aurait pu arriver sur le match aller là. Parce que je pense que si ce scénario survient, je pense qu'il y a une génération de supporters qui ne se remettra jamais à ce sport. Parce que tu peux. Déjà, les supporters du Barça, ils ont enchaîné des trucs assez incroyables sur quelques années entre la Roma et Liverpool. Je pense que là, si tu enchaînes Manchester, Barça, enfin Barça, Manchester et là le Bayern, où tu te fais sortir sur le match retour, et là en plus encore plus à domicile. Je sais pas, mais c'est un scénario qui n'est pas du tout impossible, hein, parce que si t'arrives pas à bloquer un peu plus le Bayern et qu'il y a un peu plus d'efficacité, tu peux très bien perdre 3-1, 4-1 en faisant le même match.
Mais
Donc,
en fait, le truc, c'est que tout peut se passer sur le match retour. La seule certitude, c'est que normalement, je pense qu'il peut pas y avoir moins de buts que ce soir, en fait, au match retour. Il y en aura peut-être que 4, mais je serais très curieux de voir les cotes pour le plus de 3,5 buts marqués. Je pense que la cote sera en dessous de 2, par exemple. Voire
C'est
même
quand même bien.
1,50 ou 1,60.
Ce qui est bien pour le PSG, c'est d'avoir quand même gagné 3-2 plutôt que 1-0, parce que ça va obliger le Bayern à beaucoup attaquer, donc beaucoup ouvrir. Alors que je pense que si tu gagnes 1-0, mais avec le même match où tu mets une de tes 5 occasions et le Bayern en met 0 de ses 12, ses 10 ou ses 6, je vois bien le Bayern faire un peu plus de contrôle au match retour et gagner un 1-0 ou 2-0 un peu plus net, avec un peu moins de rythme.
Après,
Alors que là, finalement, t'es obligé de refaire. Pour le Bayern, t'es un peu obligé de refaire la même chose finalement.
d'un autre côté, est-ce que le Bayern peut plus attaquer que ce qu'il a fait ce soir?
Bah, il
Non,
peut,
c'est
il faut.
une vraie question.
Ouais. En fait, il faut au moins qu'il le fasse pour arriver à 2-0 et après,
Et
advienne que
maintenir
pourra,
l'écart
mais
après, ouais.
c'est ça. Mais c'est pas une équipe qui est spécialisée dans l'idée de maintenir l'écart. Hein. Ils vont creuser, creuser, creuser. Je suis d'ailleurs en train de regarder leur dernier match. Il y a du 5-1, du 4-2, du 3-1, du 2-1, du 4-0. Mais finalement, les matchs le plus contrôlés, c'était contre Leipzig, où ça a fait 1-0 et ça tire pas beaucoup.
Ouais,
Ça tire pas beaucoup des deux côtés,
mais
il n'y a
ils
pas
avaient
d'occasion,
subi
je
en
sais.
fait. C'est
Ah.
surtout ça, enfin, un contrôle. Ils subi. Disons, Leipzig avait vraiment bien joué et le Bayern n'était pas trop dans une position de
Ah, mais
dicter le
oui,
scénario, quoi.
en plus j'ai vu des bouts de match et Dani Olmo m'a rendu fou, j'ai eu envie de l'insulter à plusieurs reprises. Donc il y a trop de matchs et je les confonds.
Mais alors, deux choses pour rebondir sur ce que tu dis. La première, c'est, je crois que c'était dans l'équipe, un article sur Thomas Müller. Où il disait que quand le Bayern menait 8-0 face à Schalke, il gueulait en disant « Allez, il y a 0-0, il faut continuer à marquer ». Donc, très Thomas Müller comme réflexion, joueur qui parle tout le temps. Et effectivement, ça rejoint bien l'idée que bah, finalement, cette équipe-là est toujours dans l'idée d'attaquer. Même si, encore une fois, 8-0, il n'y a pas question d'aller-retour ou autre. Donc, il n'y a pas question de calcul. Hein, mais voilà, c'est un peu la mentalité locale de ne pas faire de pitié. Et la deuxième chose... Qui, alors c'est un petit retour en arrière, mais sur ce que vous disiez sur un peu les certitudes du retour, la certitude que tu as aussi, alors il peut toujours se rater, hein, mais c'est que Paris a confiance dans son gardien et du coup n'aura pas adapté son plan de jeu pour masquer d'éventuelles faiblesses là-dessus. Je pense que si tu as Trapp, si tu as Areola, si tu as même Sirigu, Buffon de la saison où il est à Paris,
Déjà, t'es
peut-être.
pas en quart.
Oui, c'est ça. Déjà, t'es pas en quart, tu sors même pas des poules, je pense. Mais enfin, tu vois, tu peux avoir cette interrogation de dire c'est passé cette fois, mais on peut plus concéder de plus de 20 tirs dans un match et plus de 7-8 tirs cadrés, sinon ça va pas passer. Là, t'as la en gros, tu as la même certitude qu'avait l'Inter, alors avec Julio César, mais surtout sa charnière Lucio Samuel, en se disant on peut rester dans notre surface tout le match, il n'y a pas de souci, on sait très bien que ces mecs-là vont répondre présent. Alors, Navas fera son match ou ne fera pas son match, a priori, il y a quand même de bonnes chances qu'il soit encore un très bon retour, mais au moins, t'as pas à changer ton approche pour masquer d'éventuelles faiblesses là-dessus. Et si en plus tu rajoutes au fait de ne pas concéder de pénalty, de ne pas faire de faute, en gros, ça veut dire que tu es quand même globalement sûr de toi sur l'idée d'avoir un plan de jeu réactif avec un bloc bas.
Mais d'ailleurs, dans les 15-20 dernières années, il y a combien de gardiens qui ont été plus réguliers et plus forts en Ligue des Champions qu'Kaylor Navas?
Alors, il n'y en a pas, hein.
Oui, non, non, Oblak se rate rarement, mais Navas peut-être gagne 3 Ligues des Champions, quoi. Donc,
peut-être Buffon à un moment, mais sauf que la Juve, elle n'est pas souvent au bout.
Bah, jamais. Jamais avec Buffon. Donc,
Bah 2000, si, 2003, ils vont en finale.
Oui, non, mais je veux dire, il la gagne jamais. Il ne sort pas les tirs au but. Quoi. Donc,
mais je sais pas, peut-être Casillas à un moment avec le Real début des années 2000. Quand ils font 2-3 finales et qu'ils en gagnent, ils en gagnent 2.
Ouais, non, mais l'une des rares fois où Navas se rate, je crois que c'est l'aller face au Bayern et au final, il est énorme au retour. Donc l'un dans l'autre, t'as vite oublié les affres du match aller. Rien à rajouter, messieurs ?
Non.
Vous avez passé une bonne soirée. Raphaël, est-ce que t'es de... quel est ton statut émotionnel par rapport au Paris Saint-Germain actuellement ?
Je suis de plus en plus détaché, notamment parce que certains joueurs m'agacent, mais ils sont toujours là pour nous refaire croire à quelque chose en Ligue des Champions derrière. Donc, je sais pas. Enfin, j'avais quand même été plus enchanté par la performance au Camp Nou, qui était plus forte collectivement, mais aussi parce que le Barça posait moins de problèmes. Là, c'est vraiment quelques performances individuelles et une grosse défense de la surface sur vraiment des derniers recours, des moins une qui ont été assez bonnes. Mais tu sais, le mec en contrôle qui veut pas trop espérer ni trop s'impliquer parce qu'il sent que ça peut mal tourner à tout moment.
Oui.
Et c'est vrai que ce match aller. Alors, j'ai vu des gens qui étaient assez critiques d'XG, en effet, de ce que ça pouvait dire, et je comprends parce que sur un match comme ça, surtout quand t'es supporter, t'as envie d'être dans la passion et te dire ah putain quand même trois buts à l'extérieur avec des performances individuelles comme ça c'est quelque chose, mais en même temps l'XG ça te permet aussi de savoir si ce que tu as fait est reproductible ou pas, et le côté reproductible des occasions du Bayern peut inquiéter surtout dans une saison comme ça où le domicile extérieur joue pas vraiment et où le PSG pour l'instant a été meilleur à l'extérieur. Alors est-ce que ça s'explique ou pas, je ne sais pas, ou juste des coïncidences de calendrier, d'état de forme. Mais je pars vraiment sans a priori sur ce qui peut se passer, parce que je pense que d'ailleurs que c'est un des matchs les plus difficiles à lire, parce que ça a l'air extrêmement dominé, et en même temps t'as senti que le PSG pouvait facilement créer du danger dès qu'une ligne était cassée, donc c'est plus, j'ai plus de difficultés à lire un match comme ça qu'un match finalement où ça fait 10 tirs à 10 et où tu sens les forces des deux côtés. Là les forces sont assez variables et imprévisibles.
Et puis à noter que si les supporters parisiens sont mécontents des XG, on peut dire que ça les favorise finalement, parce que si ça n'existait pas et qu'il n'y avait que le nombre de tirs concédés et de côté, ça serait bien pire, et qu'au final là, les XG te permettent justement de nuancer ça.
Oui, non, donc, c'est tout l'intérêt du truc, oui, c'est d'aller plus loin que juste il y a eu 30 tirs à 6, ils ont garé le bus, c'est quand même plus intéressant, donc faut les prendre pour ce que c'est, ça veut pas dire que c'est la vérité, et évidemment que c'est pas grave de perdre XG, on s'en fout, c'est pas le but du football d'avoir plus d'occasions que l'autre, c'est de gagner. Mais en général, tu gagnes plus souvent et plus longtemps quand tu arrives à te créer plus d'occasions que l'adversaire. Mais la Ligue des Champions, évidemment, c'est un format un peu différent. Et les XG sur un match, c'est utile. C'est pas non plus l'outil le plus intéressant sur un seul match. Oui, c'est plus intéressant sur la durée.
C'est une mise en perspective. Autre mise en perspective, celle qui va concerner les paris avec notre partenaire PMU.fr.
PMU vous présente la séquence prono.
Les paris, où je vous rappelle déjà l'offre qui est en cours, c'est dispo jusqu'au 18 avril. C'est une offre qui se couple à l'offre de bienvenue, les 100 euros offerts quand vous arrivez sur PMU.fr. Il y a l'offre En fait, c'est tout simple. Je vais y arriver. C'est 2 fois 10 euros de free bet en bonus quand vous rentrez le code VDB dans la partie code promotionnel, l'ouverture du compte. Donc voilà, en plus des 100 euros, 2 fois 10 euros de free bet jusqu'au 18 avril. Donc entre ça et le premier mois gratuit sur Coparena, il y a vraiment beaucoup de choses. On essaye de vous gâter pour ces quarts de finale de Ligue des Champions. Messieurs, je n'ai pas les paris de Florence. Je ne sais même pas s'il en a en stock. Donc du coup, je vais partir vers Raphaël. Malgré tout, puisque Raphaël m'a donné ses paris, ce qui est déjà plutôt bien. Et je t'avoue, Raphaël, que quand j'ai vu, alors c'est pas ta faute, hein, c'est le calendrier, mais quand j'ai vu les intitulés de match, surtout le premier, je me suis dit, ah oui, effectivement, on change un petit peu de dimension, on repasse à une compétition avec des joueurs légèrement moins forts que ceux qu'on a vus ce soir.
Oui, mais d'autant plus que lors du week-end dernier, on avait parlé de Ligue 1 et de, enfin, pour les paris et de gros matchs, parce qu'il y avait quand même pas mal de grosses oppositions en Ligue 1. Là, c'est un peu moins le cas. Et je pars sur deux matchs qui se déroulent le dimanche. Je crois que c'est ça.
Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Personne n'ira vérifier.
Alors, il y en a un dimanche et un le samedi, parce que j'ai un match de Liverpool aussi. Bon, je commence par la Ligue 1 avec ce Brest-Nîmes, 15h dimanche, le fameux multiplex de 15h que Florent connaît bien parce que Bordeaux joue toujours à cette heure-là, et ça va d'ailleurs être encore le cas, à Saint-Etienne, 15e contre le 14e.
Je ne regarderai pas, ouais.
Même pas le multi.
Non, non.
Le Gaseico, ça ne te...
Non, ça ne me chauffe pas trop.
D'accord. Le Ruffierico, peut-être, bientôt. Brest-Nîmes, donc le 16e contre le 18e. Brest qui est un peu dans la galère ces derniers temps. Et dans le jeu, apparemment aussi, ça se délite pas mal. Plus, Paul Lann, qu'on avait interviewé pour Copa Arena, s'est fait les croisés. J'ai lu ça, là, il y a quelques heures de ça. Flo, tu nous as envoyé ça. Bon, bah, soutien, parce que c'est ce que j'avais connu aussi. On s'en fout, parce que moi, j'ai pas du tout le même talent que lui, mais quand même, ça fait mal. Surtout comme ça, en fin de saison. Brest qui est pas très loin de jouer le maintien finalement, surtout que Lorient et Nîmes, donc, dont je vais parler, reviennent bien. Nîmes qui est en... Je vais reparler de XG et de X-Points, encore plus emmerdant, et depuis 2 mois parmi les 5-6 meilleures équipes du championnat. Pascal Planck a bien relevé l'équipe, même si les résultats sont en dents de scie. Et là c'est un week-end très très important, parce que si tu gagnes, tu reviens à 3 points de Brest, tu peux créer un écart avec Nantes, et tu peux te mettre un peu plus dans la tranquillité. J'ai vu ce que produit Nîmes ces derniers temps qui est pas inintéressant. Je pars sur une victoire de Nîmes à Brest et c'est à 3,60, Christophe.
J'aime bien parce que tu ne notes jamais. Oui, c'est à 3,60.
Non, je note, mais je suis jamais de retour sur ce que j'ai envoyé au moment où je parle de mes paris. Je note mentalement, 3,60. Donc voilà pour ce match qui est à 6 points, bien sûr. On ne fait que des matchs à 6 points dans les paris.
Absolument.
Comme dirait Flo, je pense pas que je vais le regarder, mais je suivrai ça pour mon pari, parce que Nîmes, on les voyait condamnés il y a quelques temps, et finalement là ils sont pas si mal que ça, et Brest qu'on voyait sûr de se maintenir il y a quelques semaines est plus très très bien. Donc Brest-Nîmes dimanche 15h, Nîmes à 3,60.
Patrick Jane, tu as un deuxième match qui n'est peut-être pas à 6 points, ça dépend, c'est à dire qu'il y a 5 points d'écart entre les deux équipes, mais Aston Villa a un match de moins, un match de plus à jouer, donc du coup ça peut se réduire, et donc ce match c'est Liverpool-Aston Villa.
Oui, match de samedi 16h, Liverpool-Aston Villa. Je suis en train de regarder, voir s'il n'y a pas un meilleur match pour m'éviter de regarder ça, parce que c'est très douloureux de regarder Liverpool cette saison, mais non, il n'y a rien, il n'y a rien de top, donc je pense que je vais finir devant. Liverpool-Aston Villa, 16h dit samedi, oui, c'est Liverpool est 7ème, Aston Villa est 9ème, quelques points d'écart en effet, Aston Villa a un match en retard, Liverpool est revenu à 3 points de la 4ème place grâce à sa victoire le week-end dernier. Bon, il y a du monde devant, il y a West Ham, il y a Chelsea, il y a Tottenham, et vu ce qu'ils ont produit contre le Real et leur performance récemment en field, je pars sur un match nul entre Liverpool et Aston Villa, c'est à 4,40. Faut noter que j'ai perdu mes deux paris précédents, comme d'habitude. C'était donc un penalty entre le PSG Bayern et Chelsea Porto, un but ou aucun but. Et Chilwell a marqué à la 85e. Un but assez fantastique d'ailleurs, pour plusieurs raisons. Donc je suis encore dégoûté, donc je prends des cotes assez élevées. Et Liverpool s'était fait torpiller par Aston Villa au match aller. Je sais pas si vous vous souvenez de ce match. Ça annonçait un peu la saison difficile de Liverpool.
7-1. Ouais.
7-1 ou 7-2 avec une équipe en perdition. Et pourtant, Van Dijk était encore là à l'époque. Mais Aston Villa avait vraiment massacré Liverpool. Là, je pense pas que ça finira pareil parce que Liverpool n'arrive plus à marquer, donc ils marqueront même pas un but. Et Aston Villa n'est plus sur le même rythme offensif. Mais je pense qu'il y a moyen d'aller embêter les Reds pour les Villains. Et vraiment, il suffit d'écouter l'épisode d'hier hein, pour avoir un peu une argumentation. Mais Liverpool était en grande, grande difficulté contre le Real sur tous les plans du jeu. Donc c'est ça, vu qu'en plus leur dernier espoir de faire quelque chose vraiment d'important cette saison, c'est le match retour contre les Real qui arrivera quelques jours après. Je pense que ce match tombe mal contre une équipe qui en plus n'est pas ridicule. Donc le nul à 4,40, j'ai failli partir sur Aston Villa, mais je me dis quand même, il y a toujours Mo Salah qui est capable de claquer un but, quelque chose comme ça. Peut-être Thiago Alcantara qui peut bouleverser un peu l'équipe s'il est titulaire. Donc 4,40, le nul entre Liverpool et Aston Villa samedi.
Merci à toi, Florent. Sur quoi tu pars? Est-ce que tu vas parier sur la défaite de Bordeaux, comme tu le fais
Non,
régulièrement?
non, 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 je pars pas sur Saint-Étienne-Bordeaux parce que Saint-Étienne est capable de tout cette saison aussi. Donc non, je vais partir justement sur un peu la course au titre et je vais partir d'abord sur le match du Paris Saint-Germain samedi à 17h face à Strasbourg. Alors j'hésite entre deux paris pour l'instant. Je vais me décider
Il y a quand même une heure et demie d'émission pour que tu y
tout en
réfléchisses.
ouais, je non en vrai j'ai un avis assez arrêté. Mais bref, l'idée c'est simplement de dire qu'en sortant de ce match et en vue du match retour, Paris va, je pense, prendre beaucoup de précautions avec pas mal de ses joueurs. Marquinhos sera certainement pas là, je pense. Neymar sera pas là puisqu'il est déjà suspendu. Mbappé, je me demande s'il sera là. Même si je me dis que par défaut, il devra jouer ce match parce qu'il n'y a pas grand monde non plus sur le banc de touche, à part peut-être Icardi. En gros, bref, malgré le fait que Paris ait quand même beaucoup de choses à perdre sur cette journée de championnat, je me dis que la priorité va être, enfin, les regards vont déjà être tournés vers le match face au Bayern. Et je me dis que Strasbourg est tout à fait le genre d'équipe capable de prendre des points au Paris Saint-Germain sur ce genre de rendez-vous-là. Parce que en plus, ils vont sortir au-delà du fait de penser déjà au match de mardi prochain. Il y a aussi le fait de récupérer entre maintenant et samedi 17h, de récupérer d'un match disputé quand même dans des conditions assez compliquées. Un match qui a fait des dégâts, je pense, sur pas mal d'organismes. Donc je me dis que voilà, Paris sera pas forcément en état de vraiment défendre ses chances et que Strasbourg peut assez facilement en mettant le match sur le défi physique. Ce qu'ils sont capables de faire avec un jeu assez direct sur Ajorque, sur Diallo, qui ont d'ailleurs battu les Girondins de Bordeaux la semaine précédente. Je me dis que Strasbourg peut gagner le match. Donc je vais partir sur victoire de Strasbourg, cote à 4,40, sachant que mon hésitation c'était Strasbourg gagne une mi-temps, qui est coté à 2,15. Mais je me dis que ce pari-là sur une mi-temps, s'ils mènent en première, je les vois bien tenir en fait. Et si Paris fait déjà la différence en première, je vois pas Strasbourg non plus forcé pour revenir en deuxième. Donc du coup, je vais partir plutôt sur la victoire sèche de Strasbourg. En plus, c'est beaucoup plus intéressant puisque c'est à 4,40, alors que la victoire sur une seule mi-temps, c'est coté à 2,15.
Ton deuxième pari, nous t'écoutons.
Deuxième pari, un autre pardon, candidat au titre, enfin pour l'instant celui qui est le moins bien placé puisque c'est l'Olympique Lyonnais qui est quatrième. Une statistique simple sur les 4 dernières journées, match face à Rennes, face à Reims, face à Paris et face à Lens, Lyon n'a jamais marqué en première mi-temps. Et je me dis que face au SCO d'Angers, qui est capable, lui, d'éteindre assez facilement des matchs et de fermer s'il a envie de fermer, je me dis que ça peut rester à ce niveau-là sur la première période. Et donc Lyon-Angers, match nul à la mi-temps. Voilà, c'est très simple. En plus, Lyon n'a vraiment pas l'habitude et le comportement d'une équipe qui est proactive et qui veut aller chercher son succès. C'est plus une équipe qui va être dans la réaction en deuxième mi-temps après avoir raté sa première mi-temps ou n'avoir rien fait de sa première mi-temps. Donc, simplement, match nul à la mi-temps, c'est coté à 2,30 et c'est donc le match entre Lyon et Angers.
Eh bien, merci Florent. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Est-ce que tu as une visibilité sur le programme des prochains jours? Est-ce que finalement, la semaine prochaine, on refait comme on a fait cette semaine avec deux débriefs à chaud?
Eh bien, il y a de fortes chances, Christophe, qu'on fasse comme ça, puisque ouais, le match du Paris Saint-Germain arrivera dès le mardi soir. Donc, en effet, mardi soir, c'est sûr, on sera là. Mercredi, on verra, ça dépendra sans doute des rencontres, même si c'est vrai que City, enfin, que le Dortmund City et le Liverpool Real ont de l'intérêt encore aujourd'hui, vu ce qui s'est passé à l'aller. Donc il y a des chances en effet qu'on fasse une double dose, ou alors peut-être que la double dose attendra jeudi soir pour qu'on parle un peu Ligue Europa, parce qu'il y a quelques matchs sympathiques qu'on pourra peut-être débriefer après les quarts de finale retour, qui sait. Donc voilà, oui, il y aura deux épisodes la semaine prochaine.
Il n'y a pas un classico qui arrive là ?
Si, samedi.
Samedi 21h.
Est-ce qu'on aura les moyens d'en faire un autre ? Je ne sais pas. Parce que, ou alors on enchaîne lundi, mardi, mercredi, mais ça risque de faire beaucoup, je pense.
Ouais, tu sais, on n'est pas obligé de parler de la défaite de Liverpool au match retour. Hein. On peut sauter le mercredi. Hein.
Ouais, mais après, City. Enfin, c'est pas dit que City passe, en fait. Bon, après, est-ce que le match est intéressant ? Je ne sais pas. Et sera intéressant ? Je ne sais pas. Mais potentiellement, on peut faire. On va pas faire un débrief interne à l'antenne, mais on peut peut-être faire lundi, mardi, jeudi soir, vendredi, si on inclut le City et Liverpool avec le débrief des quarts de Ligue Europa, par exemple.
Mais ça, on le décidera ensemble. On est encore à l'antenne.
Absolument.
Les gens pourront nous proposer aussi, nous inciter à aller dans une direction plutôt qu'une autre.
Non, mais c'est bien, les gens voient un petit peu comment ça se passe. Ils entrent au cœur du réacteur. Merci messieurs, on se quitte là-dessus. Et puis il est 1h du matin, on va tous se coucher. Bonne écoute et puis à très vite. Bye bye, cordialement.
Vous avez tout compris grâce à ce podcast. C'est le moment de parier sur PMU.fr. PMU, que les meilleurs gagnent.